Radio ici et maintenant, 95.2 ici et maintenant.com sur internet. Jean-Marc Roder est avec nous et il n'est pas le seul à être avec nous. Il y a aussi Henri. Henri, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Henri.
Alors d'abord, je voudrais vous évidemment vous féliciter pour une émission aussi intelligente sur ce sujet. Je trouve effectivement que Jean-Marc Roder est quelqu'un de remarquable. Moi, j'aurais personnellement une question à lui poser à propos des extraterrestres, cette fameuse affaire d'extraterrestres. Est-ce qu'il sait un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi certains pouvoirs occultes veulent cacher ça?
Ben, c'est-à-dire que là, je dirais que moi, j'en sais, je pense, ni plus ni moins que vous. Pour, je parle la partie supposée cadavre extraterrestre ou même extraterrestre vivant dans, éventuellement dans des bases américaines ou je ne sais pas quoi. Oui. C'est possible. Il est possible aussi que ça soit un bluff. Il est possible que ça soit tout à fait vrai. Je dirais, là, j'ai les mêmes interrogations que vous, je pense. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que là où je suis très ferme, c'est quand des gens me disent « OVNI, mystère pour les engins », je dis « ou vous n'êtes pas informé, à ce moment-là, vous avez toutes les excuses, ou vous êtes informé, et à ce moment-là, vous êtes un fiefé menteur. » C'est-à-dire que l'antigravité, on sait ce que c'est. Vous regardez, par exemple, un site comme Quantum, il vous donne un historique complet. Bon.
D'accord.
Et vous verrez qu'il y a des dizaines de gens qui ont travaillé très sérieusement là-dessus, il n'y a aucun doute. Bon. Par contre, pour ce qui est des biologiques, c'est-à-dire donc les extraterrestres, moi, je ne peux exprimer là qu'une, je dirais qu'une conviction. C'est-à-dire que ça vous étonnera, parce que ça ne correspond pas tellement à mon langage habituel quand on discute. Mais là, je suis obligé de dire, ça n'est qu'une conviction. Moi, je suis convaincu, de toute façon, qu'il doit y avoir pas mal d'extraterrestres qui se baladent sur Terre, que donc, ils seraient pas forcément surprenant que certains aient eu des accidents ou se soient fait choper, comme on dit.
Oui.
Mais en même temps, je n'ai pas vraiment ce qu'on pourrait appeler des preuves. Voilà.
D'accord. Mais au cas où, par exemple, ce soit effectivement vrai, etc., pourquoi faut-il absolument cacher l'existence, enfin d'après évidemment le point de vue des autorités américaines ou de ces fameuses forces occultes, pourquoi faut-il cacher ça? Est-ce que c'est pour éviter une psychose du peuple américain ou même du peuple de la planète tout entière? Ou pourquoi cette absolue
oui, secret.
Cette volonté de secret pour parce que finalement si ça existe effectivement, moi aussi je pense qu'il y a des extraterrestres sans être un illuminé, pourquoi est-ce que ça doit être forcément quelque chose de dangereux ou à cacher?
Ben, ce serait peut-être dangereux si justement il y a plusieurs hypothèses. C'est-à-dire que soit des conspirationnistes, je ne parle pas des fous furieux, hein, je parle des conspirationnistes raisonnables, sérieux, ont raison. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y a des races extraterrestres hostiles, d'autres qui ne le sont pas, et que si on cacherait l'ensemble, c'est parce qu'il y a des hostiles. Ça, c'est une des hypothèses.
Parce qu'il y a des quoi ?
Parce que certains conspirationnistes, parce qu'il y a plusieurs écoles dans ce domaine. Certains
oui.
disent si on cache les extraterrestres, enfin leur existence, c'est parce qu'il semblerait qu'une ou deux de ces races nous soient très hostiles, en gros envahissent notre planète,
oui.
d'autres ne le seraient pas, mais pour pouvoir s'occuper des hostiles, ben, on les cache tous en quelque sorte.
Oui, d'accord. Alors,
ça c'est la première école. Il y a une deuxième école, je vous donne simplement ce qui est affirmé, hein. Je n'en soutiens aucune, moi je suis comme vous, je regarde et j'observe, je ne sais
Bien
pas.
Sûr.
Alors, deuxième école, il y a une école qui dit ils sont tous très gentils, il n'y a pas de méchants, et c'est pour ça que les gouvernements les cachent, parce que ces types nous apporteraient des technologies type énergie libre, etc., et donc ils n'ont pas envie que ces mecs-là nous apportent tout ça. Bon, ça remettrait en cause leurs pouvoirs gouvernementaux.
Bien sûr.
Si des gentils nous passaient un peu de leur science, en quelque sorte.
Bon.
Il y a une troisième école qui dit, en fait, les extraterrestres sont pas plus gentils ou plus méchants que d'autres, mais simplement, les militaires veulent se les réserver en se disant, puisqu'ils ont des très hautes technologies, autant qu'on les leur pique ou qu'on leur achète, et il n'y a pas besoin de les donner aux civils. Voilà en gros les trois écoles qui dominent dans le monde en matière d'extraterrestres. Je ne sais pas laquelle est exacte, peut-être que toutes les trois ont tort, j'en sais rien, mais je voulais vous résumer à peu près les perspectives dans ce domaine.
Bon, je vous remercie beaucoup.
Mais je n'en sais pas plus que vous, c'est-à-dire que pour la partie extraterrestre, moi je suis comme vous, j'ai des documents, enfin j'ai trouvé des documents qui semblent extrêmement probants, en particulier de photos de cadavres d'extraterrestres, mais pas les bidons qu'on voit sur Internet, des trucs vraiment sérieux. Mais le problème, c'est que ça peut être aussi une super manip gouvernementale. Donc même moi, je suis méfiant. Alors, vous avez vu, rien qu'en voyant le truc sur Kennedy, vous avez vu à quel point une manip peut atteindre des niveaux élevés.
Bien sûr.
Oui. Bah, sur des extraterrestres, ça peut être pareil. Donc, par contre, ces documents ont des sources gouvernementales que j'ai pu authentifier, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est vraiment des extraterrestres.
Ouais, ça peut être une manipulation du...
Oui, comme ça peut être vraiment des extraterrestres.
Ouais.
Mais je ne sais pas. C'est-à-dire que là, je dirais, comme moi je ne suis qu'un petit invalide en AH, bon, qui a beau être physicien, il est bloqué en France, vous voyez. Je peux enquêter n'importe où en France, mais guère au-delà, quoi. Ou en Allemagne facilement, parce que je suis Strasbourg, donc là, il m'est arrivé d'aller en Allemagne directement dans les archives. Mais... je peux pas aller au-delà pour des questions financières. Donc là, je dirais, je pourrais peut-être répondre si je pouvais pendant quelques mois aller aux États-Unis. Là, je saurais où creuser, qui voir et dans quelle base aller me balader. Vous voyez ce que je veux dire ?
D'accord.
Mais comme en ce moment je n'ai pas ces moyens, je dirais, je reste très prudent. Je suis comme vous. Je dis, on va être normands, hein, tous les deux. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non.
D'accord.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Et bonne soirée. Au revoir. Le standard est à nouveau ouvert, 08 92 23 95 20. Alors Jean-Marc Rodeur, tu nous parlais de manipulation qui pouvait être gouvernementale.
Oui.
T'es-tu déjà demandé si ces archives n'étaient pas aussi une manipulation, si toutes ces informations qu'on a eues depuis n'étaient pas une manipulation ?
Dans le domaine quoi ?
De JFK. Revenons sur Kennedy qui est quand même le thème principal.
Ah oui, non, là on n'est pas dans les manips, parce que quand je parle des documents gouvernementaux...
Oui.
Sur les 900 000 documents, 400 000 sont des documents de manipulation, précisément. C'est des manips. Mais ça ne nous trompe pas, sois tranquille.
D'accord.
C'est des manips, oui. De toute façon, dans les dossiers JFK, la moitié des docs sont simplement des docs de mensonges et de manips. Comme le truc dont je parlais dans l'émission de radio, qu'a découvert William Raymond, qui a été le premier à le trouver. Le document CIA 450, par exemple, le dossier 450 CIA, c'était le dossier de la manip des films. Donc on peut appeler ça un document de manip. Et on a plein de documents comme ça, qui sont des documents de manip. Mais dans le cas de JFK, on s'en fout complètement, puisqu'on a des témoins humains, totalement fiables. On a des documents photographiques, totalement fiables. Des documents photos, totalement fiables. Parce qu'on a les originaux. Non manipulés, je parle pas des films manipulés.
Nous accueillons Robert. Robert ? Robert ?
Oui, bonsoir. Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir. J'ai une question, Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques ?
Jean-Marc, mais enfin peu importe.
Jean-Marc, excuse-moi, oui. Ça fait deux fois que je suis un peu dans les vapes. Je voulais te poser une question.
Oui.
Dans ton exposé sur cette affaire Kennedy.
Oui.
Est-ce que tu as pu trouver le mobile exact qui a poussé ces gens-là à éliminer Bob
Kennedy ? Tout à fait, oui. C'est-à-dire que les mobiles, ils sont convergents, en fait. Ils sont pas uniques, ils sont multiples. C'est-à-dire que c'est... si tu veux, pour te donner une comparaison qui est plus simple, parce que là, c'est moins complexe, regarde les mobiles des gens qui cherchaient à assassiner De Gaulle. Il n'y en avait pas un. Il n'y avait pas que l'Algérie française. Hein. Il y en avait plusieurs. C'est-à-dire pour eux, De Gaulle, c'était à la fois le problème de l'Algérie, les gens qui voulaient assassiner, ouais, etc. C'était aussi le problème des réformes économiques françaises, etc. Ça faisait ce qu'on appelle une convergence de motifs. Kennedy, c'est exactement pareil. Kennedy, il emmerde les pétroliers, il emmerde les militaires, parce que les militaires eux-mêmes doivent d'une certaine manière leur carrière et leur confort aux pétroliers qui contrôlent eux-mêmes les usines d'armement, financièrement.
Tu vois ? D'accord.
Etc. Donc tout de suite, tu as une convergence. Et à côté de ça, autour de ça, il se trouve que les gens qui défendent les intérêts pétroliers, qui défendent les intérêts du complexe militaro-industriel, à savoir les chefs d'état-major et les industries d'armement, sont en même temps des gens qui partagent les mêmes idées politiques, c'est-à-dire qui sont d'extrême droite aux États-Unis. Pour tout dire, facho, quoi, pour simplifier. c'est-à-dire un peu plus à droite que Le Pen, en gros. Voilà. J'ai dit un peu plus à droite. Donc, ces gens-là, c'est eux qui sont au poste clé des industries d'armement, au poste clé du haut commandement militaire américain, au poste clé des sections de renseignement, au poste clé des sections fédérales de police, FBI, et au poste clé des industries pétrolières. Eh bien, en même temps, ces gens sont dans la même mouvance politique. Donc forcément, ils se connaissent tous, ils se rencontrent. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient que Kennedy, pour eux, qui est un horrible traître, qui est le fossoyeur de l'Amérique et qui en plus touche à leurs intérêts matériels, très naturellement, ils disent, on zigouille, et puis c'est tout. Et à ce moment-là, tout le monde se met d'accord et se coordonne de soi-même, très naturellement. Est-ce d'accord. que tu saisis?
D'accord.
Voilà.
Ben oui, c'est un...
C'est pas si compliqué, finalement.
C'est
milliers de liens, c'est vrai.
Tout à fait, c'est ce que j'avais comme opinion. Maintenant, je voudrais apporter une petite information en ce qui concerne les extraterrestres.
Oui, ce serait bien, excuse-moi de t'interrompre, mais j'aimerais bien qu'on recentre, qu'on reste sur Kennedy.
Ça va dans le même sens, pas vraiment, c'est simplement parce que j'ai deux mots à dire
dessus,
c'est tout.
D'accord.
Ayant moi-même assisté à une manifestation extraterrestre en présence d'une personne qui m'a confirmé qu'effectivement les États-Unis ont été contactés par les extraterrestres, le président Bush a été contacté par les extraterrestres, donc je ne mets pas en doute les informations et de ce que j'ai vu moi-même. Je ne peux donc pas douter de ce que j'ai vu. Donc je confirme effectivement... Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'ils sont ont une telle capacité de technologie, de maîtrise des éléments, que je pense qu'ils sont capables d'évaluer aussi notre état de conscience, nos faiblesses et toutes les énergies qui tournent autour de nous.
Eh bien, merci à
Robert,
toi.
Robert, c'est Didier. Oui, je constate, et Jean-Marc m'en excusera, que Jean-Marc Roder est mieux placé pour parler de Kennedy que de E.T. Inversement, Claude Poher n'est pas du tout placé pour parler de Kennedy, mais très bien placé pour parler de E.T.
Ah bah oui, il est quand même le fondateur du GEPAN, hein, il ne faut jamais l'oublier.
Absolument.
En même temps que physicien.
Absolument. Et Claude Poher, après un an et demi d'investigation de notre part dans le cadre de cette émission La Vague d'OVNI le mardi, nous disait très très récemment, et c'est noir sur blanc dans son dernier bouquin, Gravitation, les univers sont énergie du futur, vers la fin du bouquin, il dit la question n'est plus de savoir s'ils existent, mais comment ils se déplacent. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à l'auditeur précédent. Ce n'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pour un Claude Poher, c'est une évidence qui, à son grand étonnement, n'est pas suffisamment partagée. Voilà.
Le standard est à nouveau libre. 08 92 23 95 20. 34 centimes la minute. 08 92 23 95 20. Ici maintenant 95 de Jean-Marc Roder et oui. Stéphane. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir Jean-Marc, bonsoir à tous.
Bonsoir Stéphane.
Moi j'avais juste une petite question, en fait c'était par rapport au dossier qui devrait être déclassé dans les alentours de 2015 ou 2000, je sais plus combien, enfin je sais plus exactement la date.
2027,
en fait, je voudrais savoir que ça pourrait apporter de plus.
2000 combien? Attends, excuse-moi Jean-Marc, 2000 combien?
2027.
Parce 2027.
Les seules exceptions qu'il y ait jamais eu sur les lois de déclassification américaines ont concerné les pièces Kennedy, certaines pièces Kennedy.
D'accord.
D'accord. Donc, qu'est-ce que ce dossier pourrait apporter de plus, en fait, et quelles incidences pourrait-il avoir, en fait ?
Pas énormément, parce que ces dossiers ne sont pas aussi explosifs qu'on le croit. Pour les conspirateurs, c'est surtout des dossiers qui étaient explosifs pour, en quelque sorte, les implications de la CIA et du FBI dans l'après-assassinat de Kennedy, et c'est ces dossiers-là qu'ils ont verrouillés. Donc, en fait, les gens seraient très déçus, même si on les déclassifiait maintenant, parce qu'on sait à peu près ce qu'il y a dedans, en fait, par des témoignages périphériques de gens impliqués. En fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que la CIA et le FBI ont cherché à cacher à quel point ils avaient étouffé l'affaire après l'assassinat.
D'accord.
Parce que là, ils sont mouillés jusqu'au cou, mais après, pas avant.
Mmh. Et puis, ils ont eu tout le loisir, en plus, de tout mettre à plat.
Et pourquoi ils étouffent à fond ? Parce que vous avez vu... Je ne sais pas si vous avez entendu l'émission, là, tout à l'heure. Je crois que je l'ai un peu dit, assez clairement même. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que dans les mecs qui ont organisé l'assassinat et le coup d'État, tous ces gens sont à des postes énormes à la CIA, au FBI, au NSA, et partout d'ailleurs. Bon, même au ministère de la Justice. Donc, ces agences ne sont absolument pas impliquées. Mais c'est des gens très haut placés de ces agences qui, eux, font le coup d'État. Donc, tout de suite après le coup d'État, qu'est-ce que découvre avec horreur la CIA, le FBI, etc., 30 minutes après le coup d'État, ils ont déjà compris qu'ils sont impliqués jusqu'au cou et que personne ne croira jamais que c'est pas eux qui l'ont organisé. Donc, ils étouffent allègrement. C'est-à-dire qu'ils deviennent complices des mecs, mais par obligation, je dirais.
D'accord. Bon, ben, je vous remercie. Puis, ben, merci pour l'exposé, alors.
Merci.
Au revoir.
Merci
au revoir.
Pour ta question, Stéphane. Au revoir.
Merci, au revoir.
Et c'est vrai, Jean-Marc, le standard était nouveau libre. C'est vrai qu'en ce moment, on voit de nombreuses émissions, et c'est bien normal, hein, c'est le 40e anniversaire, notamment sur la 5 demain soir, celle de Canal+, de très nombreuses émissions sur John Fitzgerald Kennedy. Est-ce qu'on peut dire, dans ce flot d'informations, que certains se sont improvisés experts dans l'assassinat de JFK?
Pardon, j'ai pas entendu la fin de ta phrase.
Est-ce que certains se sont improvisés experts dans l'assassinat de JFK pour faire des reportages à sensation?
Non, je crois que toute personne qui, à partir du moment où, même si elle n'a qu'un petit bout du dossier qui est très compliqué, comme je t'ai dit, il y a 900 000 documents et éléments, même une personne qui n'en a vu qu'un petit bout, à partir du moment où elle les a vus honnêtement, moi j'admets tout à fait qu'elle s'intitule enquêteur ou enquêtrice sur l'assassinat de Kennedy. Simplement, certains ont enquêté plus ou moins vastement. C'est tout. Là où je réagirais, par exemple, c'est si j'entendais, comme on dit, des conneries, c'est-à-dire des gens qui... Par exemple, quand j'entends des gens... Alors là, je vais faire une allusion très précise. Un magazine de vulgarisation scientifique, de format un peu plus petit, vous voyez, que le A4, vous me suivrez,
oui.
Il s'intéresse autant aux sciences physiques qu'aux sciences du vivant. C'est permis, il y a quelques années, de dire que... la thèse de tir vers l'avant et vers le côté du crâne était idiote parce qu'on pouvait expliquer par un tir arrière l'explosion à la sortie à l'arrière du crâne de sa cervelle. Bon. C'est ce qu'on appelle se foutre de la gueule du monde. C'est-à-dire, venant d'une revue scientifique, c'est carrément une escroquerie qui est gravissime. À tel point que je me suis même demandé si cette revue n'était pas contrôlée de façon... presque direct par certaines agences de renseignement américaines. C'est à ce point-là. Donc, faire prendre des foutaises pareilles, parce que c'est en fait, effectivement, un scientifique américain qui a fait une thèse, je l'ai lu intégralement, moi ça m'impressionne pas, parce que c'est bourré d'équations, mais enfin, je veux dire, tu me connais assez, Alexandre, pour savoir que ça ne m'impressionne pas d'un poil, parce qu'on les comprend très bien. Et le gars fait une savante démonstration démontrant que les surpressions dans le cerveau pourraient expliquer que l'arrière du crâne soit arraché par l'entrée d'une balle. Ce qui est une très grande première en balistique. Voilà. C'est-à-dire que tu poses la même question à un policier scientifique au Quai des Orfèvres à Paris, tu verras ce qu'il va te répondre. Il va dire, c'est se foutre littéralement de la gueule du monde. Comment, le mec qui te répondra à la police scientifique au Quai des Orfèvres, lui, il a vu des crânes touchés par des balles. Alors que le mec qui a fait cette démonstration n'en a jamais vu un de sa vie.
Enfin, il n'est pas obligatoire d'être infiltré par la CIA pour être incompétent.
Non, l'incompétence est une chose, la malhonnêteté en est une autre.
C'est noté.
Voilà.
Je rappelle le numéro de standard pour poser vos questions à Jean-Marc Roder qui est avec nous cette nuit. C'est le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Radio Ici et Maintenant, Jean-Marc Roder est avec nous, Alphonse nous a contacté pour lui poser une question. Alphonse, bonsoir.
Oui, bonsoir Alexandre, bonsoir Monsieur Roder.
Bonsoir Alphonse, appelez-moi Jean-Marc, c'est peut-être plus simple.
Je voudrais savoir votre avis, il y a James Ellroy, un auteur américain qui a écrit une version sur l'assassinat de...
Oui, un très beau roman, j'ai beaucoup aimé. C'est un roman.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de sa théorie?
Bon, sa théorie n'a pas grand intérêt, mais ce qui est intéressant dans son roman, c'est que je le conseille, parce que d'abord c'est un très grand écrivain,
j'adore James Ellroy,
et en plus il est très bien traduit, bon moi je l'ai lu évidemment en anglais, vous en doutez, mais j'ai relu aussi la traduction française qui est excellente, une fois n'est pas coutume.
Et, il serait assez de votre avis en disant que c'est une conspiration qui mélange différents intérêts. Hein.
Voilà. Ce qui est intéressant dans le roman de James Ellroy, c'est surtout...
Il va un peu dans votre sens, d'ailleurs,
oui,
je trouve.
Mais James Ellroy n'a pas la prétention de faire un bouquin d'enquête sur l'assassinat de Kennedy. Ce que James Ellroy fait, c'est surtout un bouquin de contexte culturel, sociologique et psychologique de l'époque. Et c'est pour ça que je conseille de lire son roman, parce que là, vous pourrez vous mettre dans la peau des gens de cette période des 60s, dans cette partie des États-Unis.
Okay.
C'est pour ça qu'il est très précieux ce roman. Et en plus, le style d'Ellroy, je crois que les gens qui ne le connaissent pas vont adorer, parce que c'est un homme qui est incisif, qui est à la fois très fin et très cru. C'est-à-dire que chez Ellroy, il y a un mélange de Proust, je dirais américain, c'est comme un Proust américain, et en même temps une crudité terrible.
Ah oui, c'est un roman qui dérange. Enfin, c'est un bouquin, moi, personnellement, qui m'a beaucoup dérangé. Hein.
Oui. C'est très cru, mais en même temps, il y a un côté proustien, c'est-à-dire qu'il y a un côté très fin, quelque part.
Est-ce que je peux rappeler pour les auditeurs le titre?
Oui, bien sûr.
Alors, le titre est American Tabloid,
voilà,
de James Ellroy.
Et je crois que maintenant, il existe en poche, donc on n'a pas besoin de se ruiner pour le lire.
Oui, oui, exact. Et aussi, une autre petite chose que je voulais vous dire, il paraît qu'il y a des balles de guerre qui, justement, peuvent faire ce genre de dégâts. Par exemple, vous avez dit que au niveau balistique, c'était impossible que la boîte crânienne puisse sauter. Est-ce qu'une balle explosive ou une balle doum-doum ne peut pas faire ce genre de dégâts?
C'est-à-dire avec un retour arrière par le trou d'entrée?
Disons que si vous voulez, le trou à l'avant se fait normalement, mais vous avez un arrachage quand la balle sort, quoi.
Oui, non, mais là, je parlais tout à fait de
choses phénoménales, quoi.
Je me suis mal exprimé. Je parlais d'un article qui est une escroquerie intellectuelle publié par cette revue de vulgarisation scientifique, où un type aux États-Unis, qui est un type qui en fait travaille pour des officines gouvernementales, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un agent de désinformation, hein. Ce scientifique disait, la balle, imaginez une balle qui rentre par l'arrière de votre crâne, et qui sans faire aucun trou à l'avant vous arrache l'arrière, parce que c'est impossible, même une balle doum-doum ou explosive.
Il vous reste.
Allô.
Ben, je vous remercie. Hein.
Merci à toi, Alphonse.
Merci, Alexandre.
Problème
et merci.
De téléphone, je vais rappeler Jean-Marc tout de suite. Au revoir. C'est à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2.
Oh,
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, nous avons retrouvé Jean-Marc Rodeur. Jean-Marc?
Oui.
Oui.
Rassurez-vous.
Formidable, t'es de retour. Le standard est ouvert, d'ailleurs ça sonne. Je vais répondre immédiatement, mais on peut dire quand même que le problème pour ces comploteurs, comme on peut les appeler, le problème est la qualité de ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait au Texas, à un endroit où ils avaient un énorme pouvoir. Et leur gros problème, Jean-Marc, ça a été la réaction de ces habitants du Texas qui ne sont pas du tout effrayés par une arme à feu et qui ont couru vers les palissades.
Oui. Et
c'est ce qui a fait échouer leur plan, en quelque sorte.
Pas échouer, puisqu'ils ont réussi leur coup d'État, d'une
oui.
certaine manière. Mais disons que ça a été plus chaud que ce qu'ils pensaient, en fait. C'est évident. D'ailleurs, on a un homme qui a beaucoup parlé après l'attentat, qui était Eladio Del Valle, le type qui a tiré depuis le School Book Depository. Parce que lui, s'est vanté du fait qu'il allait assassiner Kennedy 2 jours avant, quand il traînait dans des motels à Dallas, et qu'il traînait dans la boîte de Jack Ruby. Et il s'en est vanté après l'attentat. C'est-à-dire qu'il a expliqué, il a dit, moi, voilà comment j'ai tiré. Bon, qu'il n'y avait pas de quoi se vanter, parce que c'est lui qui a raté presque tous ses tirs. C'est lui qui a blessé Connally.
Ouais.
Et alors lui, il racontait, par contre, que quand ils ont fait les dégagements des équipes, ça a été assez catastrophique. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment eu chaud, comme on dit. Hein. Pour les équipes du Grassinol, enfin pour surtout l'équipe de Mac, bon, ils se sont fait piquer, mais ils ont été relâchés tout de suite après.
Ouais.
Mais ils n'avaient pas tellement peur de ça, parce que ça, ils savaient de toute façon qu'ils seraient relâchés. Mais ils avaient surtout eu peur d'un lynchage de la foule.
Mais effectivement, les Texans ne se laissent pas impressionner par une arme. Et on l'a vu, on l'a vu notamment pendant l'arrestation de Lierve Oswald au cinéma,
où
ce policier ne s'est pas
Il est allé à main nue, carrément.
Il est allé à main nue.
On n'avait rien à foutre.
Ce qui a peut-être permis justement aux enquêteurs comme toi d'en savoir un peu plus. Sinon, il l'aurait tué immédiatement.
Oui, alors pour le cinéma, j'ai pas tout détaillé dans l'émission, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe.
Alors, on va y revenir juste après. On va accueillir Isabelle, on y reviendra après.
D'accord.
Isabelle, bonsoir.
Bonsoir. C'est assez curieux de s'entendre en studio.
Isabelle, faudrait que tu éteignes ta radio, s'il te plaît.
Alors, je l'éteins.
Ouais. Voilà. Ouais.
C'est bon ?
Ben, je pense. Vas-y.
Bonsoir. Juste, je vais vous dire le contexte dans lequel je suis. Donc, depuis que j'ai allumé ma petite radio, je dessine en vous écoutant. Et je suis sidérée de tout ce que j'ai entendu ce soir. Donc je voulais vraiment vous transmettre plus que mes félicitations. Et j'ai rarement entendu quelqu'un qui va autant au fond des choses. Et c'est le genre de choses qui me préoccupe dans moi, mon travail, qu'est le dessin. Voilà. Et
Oui.
Ça vient, j'essaie de trouver la bonne formulation.
Tu sais que les blancs en radio, ça se remarque. Hein.
Ouais, mais en même temps, ça permet de mieux parler après.
Vas-y, Isabelle.
Donc, je voulais plus en savoir, en fait, sur Jean-Marc. Savoir sa formation, ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il en est arrivé là, pourquoi il s'est intéressé autant. Bon, à Kennedy, c'est une chose, mais visiblement à d'autres choses aussi.
Mm-hmm.
Parce que c'est rare d'avoir, je trouve, un interlocuteur autant aussi juste dans son abord des choses, sa manière dont il offre les informations aux gens. Et bon, je vous aussi, ici et maintenant, je connaissais pas, voilà. Et donc aussi, s'il y a moyen d'avoir ses coordonnées, son mail ou quelque chose pour pouvoir entamer un dialogue.
Tout à fait. Si Alexandre le souhaite, je vais répondre à tout ça.
D'accord, mais vas-y, Jean-Marc.
Alors, le mail, c'est très simple, c'est JM.
Attends. Je prends mon pastel. Alors, JM.
JM. Roeder, R-O-E-D-E-R.
Ouais. Attends.
En minuscule, en un seul mot.
D-E-R. Ouais.
@, hein, c'est le petit A dans un cercle. Hein.
Merci.
Bah, je sais pas, il faut préciser.
T'as bien raison.
Hotmail.
Hotmail.com.
Voilà. C'est très simple.
jmroder@hotmail.com.
Et je précise, pour rassurer les gens, je réponds toujours à un mail par principe. Hein, si
bon, mais par principe, ouais. Je m'appelle Isabelle Châtelain.
D'accord. Alors, pour répondre à ta question, on va se tutoyer, on va s'emmerder. Alors, pour répondre, si tu veux, c'est assez simple. C'est-à-dire que ce qui émerveille les gens, à tort... Alors, par exemple, pour Kennedy, soyons clairs, c'est pas parce que j'ai étudié 30 ans le dossier. C'est simplement parce qu'il y a une synergie et on profite de dizaines d'enquêteurs qui ont fait des enquêtes. C'est l'enquête criminelle la plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. Tous les spécialistes, même en criminologie, le disent. Jamais une enquête n'a été aussi précise et poussée aussi loin dans les moindres détails.
Mais je pense que vous allez rigoler sur le 11 septembre, parce que ça a valsé. Hein. Rien que le 12 septembre, il y avait déjà des mails qui faisaient tout le tour de la planète.
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, là, il faut être patient. Je pense que dans les prochaines années, on va, un peu comme pour Kennedy, voir sortir dans les moindres détails, les moindres trucs. Mais il faut être patient. Pas être trop pressé. Donc.
Non.
Et alors, pour te répondre, bon, par contre, sur mon cursus, c'est tout simple. J'ai un cursus tout à fait atypique, hein, je le dis tout de suite. C'est-à-dire que j'ai arrêté... alors, comme ça, les auditeurs le sauront une fois pour toutes. Ça fera très plaisir à certaines personnes qui m'envoient des mails très injurieux, parce que là, ils vont se régaler. Bon.
Ah.
Alors, moi, j'ai arrêté mes études en début de classe de seconde.
Waouh.
J'ai, après, fait des tas de jobs, des petits jobs purement alimentaires, hein, comme beaucoup de gens, qui n'ont rien à voir. Et j'ai repris directement mes études en DEA, sans jamais passer par le cursus DUG, maîtrise, etc., sur dérogation du secrétariat d'État à la recherche à cause de mes découvertes en physique. Et j'ai été, je crois, une des 3 ou 4 personnes depuis 1945 à qui on a accordé ce privilège. Voilà.
Non.
Alors, je l'avais pas dit dans les premières émissions parce que ça fait soit trop frime, soit...
Non, mais c'est bien de le préciser. Est-ce que tu pourrais aussi préciser dans quel secteur
tes découvertes non linéaire, laser, holographie.
Voilà. Attends, répète-le me.
Optique non linéaire, laser, holographie.
Il faut que tu rencontres ma mère. Tu vas halluciner.
Bah, vous en parlerez par mail.
Non, mais d'accord. Non, mais parce qu'elle fait de la recherche scientifique aussi.
Voilà.
D'accord, Isabelle.
Et donc, voilà, ça c'est mon cursus. Après, une fois que j'avais fini le doctorat, bon, ben, je n'ai pas traîné dans l'université. D'abord parce que je pensais que ça n'aurait pas été juste, parce que je pense que quelqu'un qui veut en savoir, bon, j'aurais pu postuler un poste et probablement l'avoir. Mais je considère que finalement, il est tout à fait normal que des gens qui fassent carrière dans l'université soient des gens qui aient suivi un cursus classique. Je ne vois pas pourquoi un électron libre devrait bouffer les places. Hein. Pour moi, ce serait aussi injuste que de resquiller dans une file d'attente au supermarché ou à la caisse. Hein. Et après, je suis passé dans le privé et puis j'ai suivi mon petit cas tranquillement. Alors maintenant, quand tu t'émerveilles, ne t'émerveille pas trop. Parce que en fait, moi, je suis un homme, si tu veux, tout à fait dans la tradition platonicienne, tu vois, à l'époque des Grecs. C'est-à-dire, de nos jours, on a tellement mal éduqué les gens, on les a tellement détournés des choses simples et réelles, qu'ils ne comprennent plus qu'un homme qui a une culture bien ordonnée peut très facilement comprendre beaucoup de choses.
Voilà. Non, attends. Si on peut avoir une toute petite conversation là-dessus au niveau scientifique,
oui,
je suis
Lance-toi.
Petite fille de scientifique,
oui.
Toute ma famille est scientifique, je suis la seule à avoir choisi l'option artistique.
T'as
je pense
fait.
Que les tables de la Borde, ça te dit quelque chose.
Pardon ?
Les tables de la Borde.
Vaguement, oui.
Bon, c'est pas grave, c'est mon grand-père.
Oui.
Mon beau-père a failli avoir la médaille Field et Mandelbrot s'y opposer. Voilà, Grégory Chétine, je sais pas si ça dit quelque chose. Donc ça, c'est mon beau-père, et ma mère, c'est son truc dans son coin, je vais peut-être pas en parler à l'antenne. Bon, donc, si tu veux, par rapport à la rigueur scientifique, je comprends. Et je comprends que grâce à la rigueur scientifique, on peut justement voir d'autres choses.
Oui, alors méfie-toi, parce que ce que ta maman va être furax, je pense qu'elle va me détester avant même de me connaître.
C'est-à-dire
ce que les scientifiques appellent rigueur scientifique n'est pas de la rigueur. C'est
en fait
une vision magique et empiriste du monde. Mais,
non.
Si.
Non.
Et si.
Tu ne peux pas parler de ma mère sans même savoir son cursus à elle.
Ah d'accord. Non, mais en fait, tu me l'as présenté.
Alors, moi, je vais vous proposer quelque chose, Isabelle et Jean-Marc.
Continue,
oui, vous continuez par mail. Voilà, cette discussion qui rentre dans le privé maintenant.
Absolument.
Vous la continuerez par mail. As-tu une autre question concernant Kennedy, Isabelle?
Étonné que Jean-Marc ait dit plusieurs fois qu'il n'avait pas les finances pour continuer ses enquêtes.
Non, mais je ne me suis pas du tout lamenté de ça.
Par exemple, aller à Dallas et des choses comme ça.
Non, mais je ne me suis pas lamenté de ça, c'est pas ça du tout.
Je n'ai pas dit que tu t'étais lamenté, je suis étonné, c'est tout.
Bah pourquoi ?
Pourquoi ?
Que je n'ai pas les finances pour ça ?
Oui.
Bah non, je ne veux pas que ça a d'étonnant.
Eh ben, je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas soit quelqu'un aux États-Unis, soit un mécène quelconque, soit n'importe qui ait envie que quelqu'un comme toi aille là-bas.
Ah bah parce qu'ils ne le savent pas, je veux dire, moi je suis un illustre inconnu.
Eh bien, si un mécène nous écoute, jmroder@hotmail.com.
Non mais honnêtement, moi
non, mais
franchement je serais blindé, je te donnerais, je sais pas, 100 000 euros, je te dirais vas-y.
Non, mais ce serait pas la peine, parce que tu as des gens, on a cité William Raymond pour les Français, puis tu as beaucoup d'Américains, comme Seth Cantor, des gens comme ça, qui enquêtent merveilleusement là-dessus, en mettant beaucoup de moyens. Je ferai quintuple emploi, si tu veux.
Ouais, d'accord.
Merci à toi, Isabelle.
Merci à vous et merci beaucoup à ICI maintenant.
Merci, au revoir.
Je te remercie, Isabelle. Et puis je te répondrai, hein, sur mes...
D'accord, au revoir.
Ça va continuer longtemps, je le sens, cette discussion. Jean-Marc, le cinéma, tu nous as dit tout à l'heure que tu ne t'étais pas attardé sur cette scène lors de ce documentaire que tu as fait à la radio sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Est-ce que tu pourrais apporter des compléments maintenant?
C'est-à-dire que j'ai pas bien compris.
Sur cette scène du cinéma, l'arrestation de Harvey Oswald.
Ah oui, oui, oui. Alors, oui, dans le cinéma, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les enquêteurs, la plupart des enquêteurs, ont découvert, en fait, que c'est beaucoup plus subtil. Alors, je vais pas détailler, parce que c'est... C'est-à-dire que, en fait, pour l'arrestation au cinéma, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que, en fait, on retrouve toujours ce fameux Roscoe White, le sosie de Oswald, qui est un des tireurs de Dealey Plaza, mais qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, il suffit de voir sa photo. Et ce fameux Roscoe White... En fait, après avoir abattu l'agent Tippit, est en fait arrivé à ce cinéma et s'est installé en fait en haut sur les la partie premier étage du cinéma. Hein. Donc on voit qu'il y avait un système assez complexe, je dirais, de pièges là-dedans. Et on s'aperçoit que parmi les policiers, ça j'ai pas pu le préciser parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps et troublé les gens, enfin compliqué le problème dans l'émission de radio. En fait, parmi les policiers, il y en avait deux qui étaient chargés de tuer Oswald. C'est-à-dire qui travaillaient pour les comploteurs. Et ces deux policiers se sont trompés d'étage, c'est-à-dire qu'ils sont montés en haut, où ils ont rencontré Roscoe White, et ils savaient très bien que c'était Roscoe White et pas le vrai Oswald, ils savaient quand même le distinguer, alors que le vrai Oswald, pour une raison inconnue, était en bas où il n'aurait pas dû être. Voilà, en gros. Ce qui fait que c'est des policiers non dans le complot, donc ordinaires, qui sont arrivés en bas, bon, qui mouraient aussi d'envie de le tuer, puisqu'on avait dit qu'il avait tué leur collègue. Mais je veux dire, eux, c'était sauvagement et spontanément. Mais il y avait deux policiers qui étaient en fait des vrais, j'allais dire, tueurs à gages, d'une certaine manière, qui, eux, devaient assurer, être sûrs qu'on le tue, mais ces policiers étaient sur le balcon du cinéma.
D'accord.
Et pas au rez-de-chaussée, parce qu'il semblerait que Oswald, enfin on en a déduit ça avec plusieurs enquêteurs, il semblerait que Oswald aurait dû être sur ce balcon, à côté de Roscoe White en quelque sorte, ou dans le même secteur que lui, et qu'il n'y était pas, et que donc, parce qu'apparemment Roscoe White avait un rôle à jouer, peut-être de l'emmener, ou peut-être, enfin on ne sait pas trop, mais enfin on sait que Roscoe White était sur le balcon de ce cinéma, ça c'est presque sûr. Et on sait aussi que deux policiers qui, eux, étaient dans les comploteurs, avaient pour mission aussi de le tuer de façon ciblée.
D'où l'intervention et quelques jours après.
Mais ils se sont... apparemment, Oswald n'était pas sur ce balcon. On ne sait pas pourquoi. Il s'est retrouvé au rez-de-chaussée, ce qui a un peu bouleversé la mise. Quoi.
Nous accueillons Christine. Christine, bonjour.
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 Merci pour votre émission. Attendez, je crois que mon poste ne va pas. Excusez-moi une seconde.
D'accord. Voilà. Waouh. Téléphone qui tombe par terre, tout ça. Je rappelle que vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, aussi sur icietmaintenant.com, que vous pouvez poser vos questions, juste un instant Christine, à Jean-Marc Roder au 08 92 23 95 20, 34 centimes la minute, 08 92 23 95 20, c'est à toi.
Merci. Je voulais vous remercier pour toutes vos émissions du mardi la nuit. Toutes les nuits, le mardi, je reste debout jusqu'à 6 heures du matin pour vous écouter. Car c'est fantastique tous les mardis dans la nuit.
Merci beaucoup.
Et aujourd'hui, c'est passionnant, comme d'habitude. Mais je voulais vous demander quelque chose, Jean-Marc.
Oui.
J'ai lu un article dans un très célèbre hebdomadaire parisien, français, qui montrait la photo du couple Kennedy, c'était il y a, en couverture,
oui,
c'était il y a 15 jours ou 3 semaines, je crois.
Oui.
Cet article, paraît-il, est une réplique de ce qui est paru dans Time Magazine.
Oui.
Alors, vous ne parlez pas de quelque chose qui m'a assez frappé, et je n'arrive pas à situer à quel moment ça a pu être fait.
Oui.
La bande de Lyndon Johnson avait réquisitionné un jeune homme qui était très calé pour redonner un aspect intéressant à un visage abîmé par un accident ou quelque chose.
Oui. Vous parlez du spécialiste des masques mortuaires en cire et des moulages.
Oui, il s'appelle peut-être Perry ou Ferry.
Oui, j'ai plus son nom en tête.
Oui, un jeune homme qui avait 25 ans. très calé, paraît-il, sur cette question.
Oui, oui.
Très
alors,
doué.
Là, je pense qu'il y a dans l'article de Paris Match, parce que l'article de Paris Match...
Oui, c'est Paris Match.
Bon, on peut le citer, je crois que c'est pas un problème, puisque ça leur
bon.
Appartient.
Oui, oui, on fait.
Oui.
On rend à César ce qui est à César, simplement.
Oui.
Alors, l'article de Paris Match, il y a une partie où ils ont interviewé William Raymond. Alors là, c'est irréprochable, parce que le mec, au moins, il sait de quoi il parle. Puis, visiblement, il y a une autre partie de l'article où William Raymond n'a certainement pas dit, a eu son mot à dire. Parce que sur ce, comment on appelle ça, un taxi-praxeur, hein, je peux
oui.
me trouver sur le mot, hein, vous me corrigez. Hein.
C'est quelque chose dans le genre, oui.
Oui. Enfin bref, sur ce monsieur qui a été assassiné, d'ailleurs, peu après.
Oui, il a disparu.
Il n'a pas disparu, il a été assassiné.
Ah, carrément, oui.
Oui, oui, oui. Et dans ce cas-là, vous pouvez, toute personne qui a été connectée à l'assassinat de Kennedy, quand c'est accident ou disparu, ça veut dire assassiné.
Oui,
mais à
100% doute,
de sécurité.
Oui.
Oui, il est tranquille.
Comme ça, il ne parlait pas.
Oui, exactement.
Alors justement, quand le médecin, je crois me souvenir, parce que l'article, je l'ai relu trois fois, mais
oui.
depuis que j'ai écouté votre émission, bien sûr, ça se brouille un peu dans ma mémoire.
Non, non, je peux vous dire quand il a opéré. C'est-à-dire que ce...
Est-ce que c'était dans l'avion ?
Non.
Parce qu'on a montré une photo du président
oui.
une fois la tente préparée.
Oui, oui. Alors là, je vous rassure, dans l'article de Paris Match, ils ont véhiculé, très honnêtement d'ailleurs, je ne mets pas du tout en cause l'intégrité de Paris Match, qui a très bien fait son travail, c'est des gens sérieux, mais, enfin, quand ils ne parlent pas du Rocher de Monaco, évidemment, là,
oui.
ils sont très sérieux.
C'est amusant aussi.
Non, je fais une boutade de mauvais goût. Dès qu'ils ne parlent plus du Rocher, ils sont très sérieux, Paris Match.
Ah.
Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que simplement, bon, ils ne peuvent pas tout savoir,
oui.
c'est que, en fait... Qu'est-ce que dit ce taxi-praxeur, ce qu'il a dit avant de mourir, enfin on a le témoignage de sa femme, qui dit, au fond, il lui dit, on l'appelle à Dallas, tout de suite après la mort de Kennedy, où effectivement, il fait une intervention, mais cette intervention, c'est pas pour camoufler les plaies sur le crâne ou des choses comme ça, comme le suppose Paris Match. Il intervient déjà au niveau de l'hôpital Parkland, et c'est exact, pour faire une chose beaucoup plus simple, qui est simplement un moulage de masque mortuaire du visage de Kennedy.
Ah oui, on ne l'a pas dit dans Paris Match.
Oui, parce que c'est resté secret.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
que il y a eu un moulage mortuaire qui a été fait de son visage et de sa tête. Et alors, une première tentative a été faite à l'hôpital Parkland, suivie d'une autre qui a été faite par un autre spécialiste des moulages de cire, mais après à l'hôpital Bethesda, après l'autopsie.
Ah oui.
Pendant que les embaumeurs opéraient. Où on a fait cette fois-ci un moulage complet du crâne de Kennedy.
Oui.
Et de son buste, et de son corps, enfin une partie de son corps. Et qui ont servi après à faire des fausses photos, qui ont été publiées, des fausses photos prétendues de l'autopsie. En plus des photos qui avaient été faites à Walter Reed, donc l'hôpital de l'armée de terre, où on avait déjà commencé à faire des fausses photos d'autopsie.
Ah voilà. D'accord, c'était pour faire des fausses photos.
Oui.
Oui, parce que je crois que c'est le médecin Kennedy qui, voyant ces photos, a dit, mais c'est pas ça que j'ai vu quand je l'ai vu arriver.
Oh, c'est bien pire que ça, c'est
avant,
la totalité des médecins.
Avant qu'on fasse quoi que ce soit, il a été restauré.
Oui.
C'est faux tout ça.
Oui, bien sûr.
Ça l'a mis en colère.
Je vais même vous rassurer.
Mais il a pas été tué d'ailleurs, ce médecin-là.
Non,
il
non,
a de la chance.
Je vais même vous rassurer, la totalité des médecins de Parkland, c'est-à-dire qui ont vu mourir Kennedy.
Oui.
Qui ont essayé de réanimer, mais enfin sans espoir.
Oui.
La totalité des médecins de l'hôpital Bethesda, qui ont fait l'autopsie officielle.
Oui.
Lorsqu'on leur a montré, les années suivantes, les photos de l'autopsie, ils ont dit, mais c'est pas les photos de l'autopsie, ça n'a rien à voir. Ce n'est même pas les photos que nous avons faites. Déjà. Et alors, je vous ai expliqué dans l'émission qu'on peut amener la preuve absolue que ces photos ont été faites à l'hôpital Walter Reed et non pas à l'hôpital de Bethesda. Je dis bien la preuve absolue, c'est pas des preuves relatives. Je veux dire, on reconnaît la pièce, il y a le carrelage de Walter Reed, etc.
Oui, oui.
Donc il n'y a même pas de doute possible. Bon. Et alors
parce que sur la photo du visage du président restauré,
oui.
il n'y a pas de plaie sur la tempe au-dessus de l'œil droit.
Non,
vous avez vu comme c'est bien
oui,
fait.
Oui, c'est tout à fait retouché.
Oui, c'est retouché.
Oui. Et alors, ce qui est pire encore, c'est que William Raymond, dans ses livres, a même mis les photos du masque de cire.
Ah oui.
Dans les photos de l'autopsie, il y en a 3 ou 4, je ne me rappelle plus, qui sont carrément même pas des photos du cadavre Kennedy. Encore les autres, c'est vraiment son cadavre fait à Walter Reed où on a retouché les images en quelque sorte.
Oui.
Mais ils ont même été jusqu'à faire des moulages complets du buste et de la tête de Kennedy et à nous faire passer ça pour le vrai Kennedy de façon grossière parce que ça ne trompe personne alors que c'est
mais
simplement le moulage en cire.
Ça prend beaucoup d'heures de faire ça.
Pardon ?
Ça prend beaucoup d'heures de faire ça.
Oui, il n'y a aucun problème, puisque ces photos, de toute façon, pour vous dire, n'ont été remises à la commission Warren. Alors là, je corrige aussi une chose qui est dite dans beaucoup de bouquins, vous verrez dans beaucoup d'articles, qui est « La commission Warren n'a jamais reçu de photos d'autopsie ». C'est faux, la commission Warren a reçu toutes les photos d'autopsie, les fausses évidemment, celles qui ont été faites à Walter Reed, qu'on a dit à la commission Warren qu'elle venait de Bethesda. Donc là, je dirais, j'apporte un peu un mini-scoop. Oui. Par contre, la commission Warren n'a pas publié ces photos dans son rapport. Voilà. Parce que je crois que les gens de la commission Warren ont vu que c'était tellement mal foutu que ça n'aurait absolument pas passé. Donc ils ont mis en fait des croquis et des schémas montrant les plaies dans leur rapport et pas de photos de l'autopsie de Kennedy.
Et Madame Jacqueline Kennedy n'a pas... Elle a dû voir ces choses-là. Ça l'a pas un peu...
Non, parce que Robert
rendu
Kennedy...
curieuse. Robert et son frère, Bob.
Son frère, Ted Kennedy, pardon. À qui...
Parle de Bob qui était encore vivant.
Oui, mais Bob Kennedy n'a reçu aucun de ces clichés. C'est Edward Kennedy qui a reçu ces clichés, qui ont été mis par, qui ont été remis donc par Robert Book. Et Ted Kennedy, apparemment, bon, Jacqueline Kennedy, je vous le dis tout de suite, Jacqueline Kennedy savait très bien qu'il y avait eu complot, savait très bien qu'il y avait eu plusieurs tireurs, puisqu'elle les a vus et entendus.
Oui.
Et par contre, savait très bien que de toute façon, elle ne pourrait pas, de son vivant, faire passer la vérité.
Oui.
Donc, je pourrais dire que déjà 2 ans ou 3 ans, c'est-à-dire à l'époque où elle a déménagé, enfin où elle a été vivre avec Onassis, en fait,
oui.
Elle a fait une croix définitive, c'est-à-dire que Jacqueline Kennedy n'a jamais voulu qu'on revienne devant elle sur cette affaire.
Elle avait peut-être envie de garder la vie.
Non, elle ne risquait rien. Non. Mais non, vraiment, elle ne risquait rien. Pour une raison très simple, c'est que même si elle avait dit il y a eu complot, on dirait mais c'est normal, c'est une veuve éplorée, elle ne peut concevoir qu'un complot, donc elle ne risquait pas sa vie. Mais non, c'est simplement que je pense, à mon avis, Jackie Kennedy connaissait tous les tenants et les aboutissants, comme vous, moi, ce soir, vous voyez.
Oui, on peut d'ailleurs répéter la phrase qu'elle a dit dans la voiture, mon Dieu, ils t'ont eu.
Oui.
C'est ça, Jean-Marc ?
Qu'est-ce qu'ils t'ont fait,
voilà, c'est ça.
Oui. Et alors, en fait, elle n'a jamais été dupe. Elle a bien vu à la commission Warren qu'on se foutait du monde, que c'était une commission d'étouffement et absolument pas une commission d'enquête. Les gens diraient une commission de debunking, pour utiliser l'anglicisme. Et alors, Jacqueline Kennedy a toujours dit « je ne veux même pas en parler ». C'était sa seule réponse. Robert Kennedy, lui, pareil, il a dit « je veux même pas en parler ». Et Edward Kennedy, lui, c'est même pas qu'il dit quelque chose, c'est qu'il n'en parle pas du tout, en fait.
Oui, il veut avoir la paix. Puis il est vieux.
Oui, puis je pense qu'Edward Kennedy, il voulait faire sa carrière tranquillement, faire du pognon et être sénateur à vie. Et puis
ça lui suffit.
Oui.
Tandis que Robert était peut-être un peu ambitieux à l'époque.
De toute façon, il faut être clair, dans les Kennedy, bon... Sur le plan politique, ils ont toujours été très bien quand ils étaient en place politiquement, Robert comme John Fitzgerald Kennedy. Sur le plan privé, John Fitzgerald Kennedy comme Robert Kennedy, il ne faut pas les idéaliser. C'était des obsédés sexuels qui trompaient leur femme allègrement. C'est clair.
Oui.
Voilà. Mais en même temps, c'est des gens qui, effectivement, quand ils étaient au pouvoir ou dans leur part de pouvoir, défendaient les minorités, défendaient une idée progressiste de l'homme, etc. Donc sur le plan politique, sont tout à fait estimables.
Oui.
Par contre, sur le plan privé, ne le sont certainement
pas.
Merci, Christine.
Mais je vous remercie, vous. C'était très
intéressant. C'est moi qui vous remercie, Christine.
Et bonne soirée, au revoir.
Merci, je continue à vous écouter.
Merci.
Bonsoir.
Le standard reste ouvert, bonsoir. Le 08 92 23 95 20 pour poser vos questions à Jean-Marc Roder. Jean-Marc, est-ce que tu es entré pour cette enquête en contact avec des membres de la famille Kennedy?
Oui, mais uniquement par mail, hein. En l'occurrence, enfin d'ailleurs pas nommément avec un membre de la famille Kennedy, mais avec la représentante de sa, on pourrait dire une fondation, hein, c'est la mode américaine des fondations. Et alors il se trouve que Caroline Kennedy, donc la sœur de John Jr., hein, Caroline Kennedy a effectivement une fondation avec sa connexion Internet, etc., qui est destinée à promouvoir l'image de son père, de sa mère, etc., enfin de sa partie de famille, hein. La famille Kennedy est immense, mais enfin sa partie à elle, je dirais, c'est-à-dire John Fitzgerald Kennedy et Jacqueline Kennedy et leurs enfants, hein, et leurs petits-enfants, voilà. Et alors, effectivement, j'ai eu des contacts par mail avec elle, en particulier pour avoir certains des films qui sont sur le CD, etc., les droits associés. Et mais c'est des contacts purement formels de mail, hein, je veux dire, c'est pas Caroline Kennedy elle-même en tant que personne, je veux dire.
Mais c'est le genre de dossier et de conversation qu'elle a avec tout le monde. Elle est ouverte sur le sujet ou est-ce que tu as le droit à une sorte d'exclusivité?
J'en sais rien.
Tu sais pas?
C'est-à-dire que j'ai expliqué dans quel contexte on le publierait, parce que tu sais mieux que moi que les problèmes des droits sont des choses rigoureuses qui peuvent être respectées, c'est important. Et alors, donc là, il se trouve que ça ne posait aucun problème. Ils étaient ravis, apparemment, que ça soit publié en Europe par Top Secret, etc.
D'accord.
Ça ne posait pas de problème. Alors, est-ce que c'est une gentillesse de leur part ou pas? J'en sais rien.
Nous avons Franck qui souhaite te poser une question. Oui. Franck, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à Jean-Marc.
Bonsoir,
Franck. À la radio. J'ai baissé mon poste.
Oui, s'il te plaît.
Toi, c'est tout bon, il n'y a pas d'écho, là.
Vas-y, Franck.
Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses maintenant, toi, des États-Unis, avec tout ce que tu sais sur l'affaire Kennedy et tout ça, qu'une bande de gens qui puissent contrôler le monde et tuer impunément des gens, surtout un démocrate comme Kennedy? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, ça serait de savoir si eux, aux États-Unis, ils ont pu faire ça. En France, est-ce que ça peut être pareil?
Merci Franck.
Voilà, merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Ben, je dirais qu'en France, ce serait beaucoup plus difficile parce que nous, on a quand même un avantage. C'est que les mécanismes dits de la Ve République rendraient beaucoup plus difficile un pouvoir oligarchique aussi atomisé que l'oligarchie américaine, qui n'est pas du tout centralisée. Hein. Je te rassure, Franck, ce qui, je dirais, sauve un peu les Américains de leur pouvoir fasciste, c'est que leur pouvoir fasciste est très complexe, très atomisé, pas du tout centralisé. En ce sens, les gros conspirationnistes sur Internet ont tout faux. Il faut pas croire qu'il y a une tête. Par exemple, on avait dit George Bush père, qui est un horrible monstre, et la tête de celui-là, c'est complètement faux. George Bush était un homme parmi 2000 ou 3000 autres qui sont dans cette oligarchie, qui pouvaient avoir plus ou moins son mot à dire. C'est très complexe. Comme j'avais donné comme image dans l'émission de radio tout à l'heure, j'avais dit c'est une bande de loups. Ils peuvent converger en meute, mais souvent ils se bouffent entre eux. Ils se mordent plus souvent entre eux qu'ils ne convergent. Hein. Heureusement. Bon. Ben, y a qu'à voir, si on a un exemple très, très merveilleux en ce moment avec George Bush, fils. W. Bush, pardon. George W. Bush, voilà. Et c'est-à-dire le fils, là, le grand intellectuel actuel, c'est du monde noir, hein, bien entendu. Et on voit bien que les gens qui entourent W. Bush sont des gens qui sont carrément des produits directs de cette oligarchie qui maintenant se montre à visage découvert. Bon. Et on voit bien que entre un fanatique comme Wolfowitz, un criminel de guerre et contre l'humanité comme le vice-président Cheney et un protestant de droite dure comme le troisième larron, là, je retiens jamais son nom, Rumsfeld, on s'aperçoit qu'ils se bouffent entre eux, enfin, ils sont absolument pas d'accord en fait. Ça, c'est l'oligarchie à l'américaine, hein. Donc je te rassure, ils sont très divisés. En France, c'est différent. C'est-à-dire qu'en France, avec notre système 5e République, déjà, une oligarchie comme ça peut avoir une influence, mais pas vraiment le pouvoir. Par exemple, on sait très bien que le club de l'horloge est le lieu de l'oligarchie française. C'est là que se prennent les vraies décisions. On voit bien que certains hommes politiques français sont très très proches de ces oligarchies actuelles. Je ne cite pas de nom parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique franco-française, mais ceci dit, c'est pas non plus c'est pas pour autant un pouvoir centralisé, structuré. C'est plus complexe en fait. Disons qu'ils peuvent être une influence de type lobbying en France, mais je ne pense pas que en étant non élus, ils pourraient vraiment agir. Alors qu'aux États-Unis, des gens non élus sont beaucoup plus puissants que des élus en fait. Voilà.
Je rappelle aux auditeurs de Radio Ici et Maintenant qu'ils peuvent poser leurs questions à Jean-Marc Roder pour en savoir plus sur cette affaire Kennedy, une enquête sur laquelle Jean-Marc a passé 30 ans de sa vie. Il nous a livré un résumé en quelque sorte, hein, Jean-Marc, de cette enquête. Une émission de 2h30 que nous avons diffusée en début de soirée, que vous retrouverez d'ailleurs dimanche de 15h à 17h30. Nous avons Roger qui souhaite te poser une question. Roger, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Roder.
Bah, Jean-Marc,
j'aurais voulu vous poser deux questions. La première, ça aurait été, qu'est-ce que vous pensez des deux Oswald possibles?
Oui.
Parce que, bon, dans son enfance,
Oui, le mystère Oswald, oui.
Qui a fréquenté deux écoles différentes, etc.
Oui, vous avez bien étudié le problème, oui, oui.
Et également, ce que vous pensez de la présence d'Howard Hunt sur Dealey Plaza?
Oui, alors là, ça vient... Alors, pour les deux Oswald, comme vous connaissez bien le dossier, en fait, l'hypothèse qui s'impose de plus en plus aux enquêteurs, je dis bien à tous les enquêteurs, hein, pas seulement à moi ou à des gens comme William Raymond, des gens comme ça, je dirais, ils sont tous d'accord là-dessus, parce que les pièces sont là. C'est qu'il est évident qu'on a deux Oswald qui sont élevés ensemble depuis l'enfance. Enfin, ensemble, je veux dire, dans la même ville, mais sans se connaître, hein, dans des familles différentes. L'un qui mesure, par exemple, à l'âge adulte 1m73, l'autre qui mesure 1m80. Ça, c'est clair. Donc, il est clair que là, on a une opération type gouvernementale, voire service secret, où des enfants, dès le berceau, sont élevés en parallèle, de façon à pouvoir les interchanger. Pourquoi ? Parce que ça permettait, dans le cas de la guerre froide, d'envoyer un agent à l'étranger, sans même qu'on sache qu'il soit à l'étranger, puisque son double continue à vivre normalement dans le pays d'origine. Des choses comme ça, vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui, oui.
Bon. Alors, maintenant, pour ce qui est de Howard Hunt sur Dealey Plaza. Alors, ça vient simplement...
Alors, rappelons qui est Howard Hunt.
Howard Hunt, c'est donc le patron de Texaco, l'homme le plus riche du monde, qui est un des principaux commanditaires de l'assassinat de Kennedy.
Non, je parle de l'agent de la CIA, moi. Je parle pas du pétrolier.
Ah, alors, si tu es, précisez-moi.
Celui qui est plus connu pour... Pour le cambriolage du Watergate là, avec Frank Fiorini. Là.
Ah oui, enfin, le Hunt du Watergate, oui. Alors le Hunt du Watergate, sur Dealey Plaza, est un des gens du groupe camouflage, en fait. C'est-à-dire que Hunt, contrairement à ce qu'on dit certains de façon un peu légère, n'est absolument pas dans les équipes action ou équipes de tir, si vous préférez. Il est par contre dans les équipes camouflage. Ça fait presque plus aucun doute.
D'accord.
Camouflage, j'entends par là, équipe camouflage, c'est ces fameux gens dont tous les témoins ont parlé, ces gens qui brandissaient des fausses cartes du Secret Service, des fausses cartes de flics, etc., ou du FBI, etc., et qui étaient là, en fait, pour couvrir les équipes actions, quoi. Voilà.
Bon, bah, c'était tout. Je voulais aussi...
Hunt, c'est pas un tueur, en fait. Hunt, c'est un homme d'opération spéciale. C'est ce que j'appelle ces agents CIA, opération espionnage, intello, machin, hein.
Ouais. Bon, je voulais juste vous dire que moi, à mon avis, bon, Nixon était au courant aussi de l'assassinat avant, je pense. Bon, enfin, c'est un avis personnel, ça.
Nixon était au courant avant, mais n'était pas complice. C'est-à-dire que Nixon, comme il était souvent un invité du groupe 8F, mais pour des raisons qui n'étaient pas liées à l'assassinat de Kennedy, mais qui étaient liées à des histoires de gros sous, en fait. Mmh. Ou alors des histoires de femmes, parce que Nixon était un homme aussi qui aimait bien... la gente féminine, même s'il ne l'avait pas épousée. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et alors, donc il se trouve que Nixon s'est retrouvé souvent avec des réunions chez Hunt, en particulier, dans ses ranchs, voire même dans la suite 8F, là, voire dans d'autres lieux. Nixon a même été vu d'ailleurs, semble-t-il, à deux reprises dans la boîte de Jack Ruby. Mais, pour autant, Nixon n'est pas dans le groupe qui a décidé l'assassinat de Kennedy, ça c'est certain. Et là, je suis assez affirmatif.
Merci Roger.
De rien, bonne soirée, et bon courage.
Bonne soirée Roger, et merci beaucoup de la précision de tes propres informations.
Il y avait encore une autre chose, c'était la veille de l'assassinat, présence de Lyndon Johnson dans un bar avec les agents des services secrets.
Oui, qui est probable. Ouais. Alors ça d'ailleurs dans l'article, ce sera mentionné sous cette rubrique, je dis beaucoup de faits probablement exacts, ne seront pas mentionnés dans l'article parce qu'ils ne sont pas encore confirmés par des preuves irréfutables, mais j'ai dit probablement exactes. Hein. C'est ce que vous mentionnez, par exemple. Merci. Mais moi, je ne les mentionne pas dans l'article, je ne les ai pas mentionnés, bien sûr, dans le truc de radio, dans l'émission de radio, dans le reportage, parce qu'il n'y a pas encore de preuves irréfutables. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire pour autant que c'est bidon, bien au contraire. Je mentionne 8 balles tirées. Or, je sais très bien, même par mes propres enquêtes, là je vous donne un scoop, moi j'ai pu identifier formellement 14 balles retrouvées. Seulement le problème, c'est que les analyses balistiques et sons en particulier, ces sons que vous avez entendus dans le montage de l'émission, des tirs, qui sont les sons originaux des tirs, mais nettoyés par ordinateur pour qu'ils soient bien clairs, eux n'indiquent que 8 tirs, pas un de plus. Ceci dit, on retrouve 14 balles sur Dealey Plaza. Ouais. Vous voyez, donc je peux donner beaucoup d'autres éléments, mais j'ai dit, je ne mentionne que ceux qui ont des preuves irréfutables et complètes. Les autres, je n'en parle pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, bien au contraire.
Bah, bravo. Bon travail.
Merci Roger, au revoir.
Au revoir, monsieur.
C'est à l'écoute de Radio Ici Maintenant, 95.2. Jean-Marc, on peut dire que quand même l'élément déclencheur, il y a eu différentes raisons de préparer un attentat contre JFK, ses prises de position, mais c'est quand même la raison pour laquelle cet attentat a vite été mis en œuvre, pardon, c'est le Vietnam et les décisions que JFK comptait prendre au sujet du Vietnam. Est-ce que tu pourrais y revenir quelques instants?
Oui, parce que avec les décisions sur le Vietnam, il y avait urgence financière pour tous ces groupes, parce qu'ils allaient perdre des milliards, là. Parce que la guerre du Vietnam, c'était une jolie guerre à laquelle se préparait toute l'industrie d'armement américaine, parce qu'elle la voyait venir, et tout d'un coup, Kennedy renverse la vapeur, donc il voit partir le joli gâteau.
On peut parler d'une sorte de revanche par rapport à la crise des missiles de Cuba?
Non.
Non.
Revanche, tu penserais à une revanche russe?
Non, non, pas du tout une revanche des militaires qui n'avaient pas pu avoir leur guerre, donc les dépenses qui vont avec dans le pays et qui se sont dit que cette fois, ils ne louperaient pas le coche.
C'est une raison possible, mais je crois qu'il y a une raison encore plus évidente, c'est que ces militaires risquaient aussi de perdre même leur poste, parce que Kennedy s'apprêtait à remanier tout l'état-major, complètement, de fond en comble. En quelque sorte, à changer même complètement de philosophie d'organisation de l'armée américaine.
Très bien, nous accueillons Jean-Christophe. Jean-Christophe, bonjour.
Bonjour, je voudrais parler à Jean-Marc Roder.
Oui, bonjour Jean-Christophe.
Bonjour, voilà, alors j'ai écouté l'émission depuis presque le début, enfin après 20 minutes de retard, mais bon, vous avez parlé d'un sosie de Oswald, je me rappelle plus le nom.
Oui, Roscoe White, oui.
Oui, alors la dame qui l'a filmé... Comment se fait-il que ce sont des groupes néo-nazis qui ont le film original? Comment ils ont pu l'avoir?
Ah ben pour une raison très simple, c'est que, puisque c'est en fait Régis Kennedy, c'est-à-dire c'est un agent du bureau du FBI, donc du Bureau fédéral d'investigation de la Nouvelle-Orléans, qui lui-même faisait partie du groupe Interpen, qui était un groupe fasciste, et qui était en même temps membre du groupe du... Comment ça s'appelle? J'ai pas une bonne mémoire des noms. Faut que je prenne, attendez, excusez-moi, je prends mon ordinateur, j'affiche les données, comme ça je vais vous répondre tout de suite, voilà. Laissez-moi juste une toute petite seconde.
Donc, laisse ça, Jean-Marc.
Pardon?
Oui, oui, vas-y. Voilà, regarde ton ordinateur.
Oui, donc, voyons, alors, Régis Kennedy, je suis dessus, donc, Régis Kennedy, il faut que je prenne une donnée complémentaire, c'est très complexe, hein. Oui. Il y a des milliers d'interconnexions.
Il est assez incroyable. J'ai déjà vu ton programme quand tu étais venu à la radio et c'est assez impressionnant.
Voyons. Je fais l'interpolation.
Vas-y, cherche. Moi, je vais en profiter pour rappeler le numéro de téléphone pour intervenir. Oui. Posez vos questions à Jean-Marc Roder. Vous composez un numéro de téléphone. C'est le 08 92 23 95 20, 34 centimes la minute. 08 92 23 95 20.
Enfin, bref.
Jean-Marc.
Alors donc,
tu l'as retrouvé?
Oui,
okay.
Qui est donc un agent du FBI du bureau de la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il fait partie du groupe camouflage, il est sur la place. Hein. Et tous les gens importants du groupe camouflage sont en liaison radio avec le groupe de commandement. Donc, Régis Kennedy, on lui dit de récupérer le film de Beverly Oliver, puisque Beverly Oliver a dit elle-même, c'est ce Régis Kennedy qui m'a piqué le film. Or, on sait très bien que Régis Kennedy n'était certainement pas là pour le FBI, puisque c'est les gens du FBI de Dallas qui étaient... sur place éventuellement pour après l'attentat en droit. Donc ce Régis Kennedy faisait partie des conspirateurs. Et il était dans le même groupe anticastriste que Ferry, etc. Bon. Et alors, parce que Beverly Oliver, c'est qui? Beverly Oliver, c'est une femme qu'on voit très bien dans le film d'ailleurs de Oliver Stone, puisque c'est en fait une danseuse nue qui a travaillé dans le cabaret de Jack Ruby, qui donc... Déjà, à ce titre, connaît déjà très bien Roscoe White, et en plus, c'est sa voisine. Donc, elle est bien placée pour le reconnaître. Et en plus, par hasard, elle le filme, parce qu'elle savait absolument pas qu'il y aurait un attentat, et elle se retrouve vraiment par hasard au milieu du truc, quoi, sous les tirs. Bon. Donc, ça fait beaucoup de raisons de lui confisquer son film. Voilà. Je schématise, mais voilà la réponse.
Oui, mais... Et c'est tombé entre les mains de groupes néo-nazis, vous avez dit?
Ben, c'est pas tombé entre leurs mains. Ils l'avaient dès le départ.
Ah, ils l'avaient dès le départ.
C'est des nazis qui font l'assassinat de Kennedy, c'est rien d'autre.
Ah bon, carrément.
Oui, je veux dire, quand on a des groupes comme Interpen, comme etc., ils sont encore plus à droite que le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, à côté, c'est des gauchistes.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des groupes...
Comparer le Ku Klux Klan à des gauchistes, Jean-Marc, je trouve ça assez gonflé.
Non, mais parce que c'est parce que vous connaissez pas du tout le contexte historique de l'époque.
Bien sûr, bien sûr.
Je vous assure que les gens, Howard Hunt, par exemple, ou des gens comme ça, qui sont les organisateurs de cet attentat, mais vous n'avez pas idée à quelle droite ils se situent. Je veux dire, c'est des choses qu'on ne connaît même pas en Europe.
Et par exemple, le groupe américain qui s'appelle NSDAPAO, qui est dirigé par Gary Lauk, il doit avoir une copie du film.
Oh, probablement, oui. Je n'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait absolument pas.
Ouais. Très bien, Jean-Christophe.
Voilà, je laisserai mes coordonnées à Jean-Marc hors antenne, parce que j'avais écouté son autre émission là sur le Troisième Reich.
Les prototypes allemands, oui.
Sur les prototypes allemands, tout à fait. Eh bien, oui, d'accord, ça marche. Mais tu peux le contacter par mail si tu as Internet.
Je n'ai pas Internet, malheureusement.
Oh, mais sinon, sans te ruiner, d'ailleurs, si tu veux me faire un mail, c'est pas difficile, hein, parce que tu vas dans un cybercafé. Alors, t'en as beaucoup, je te signale, pour tout ce qui est mail, à partir du moment où tu leur prends un café, le mail est gratuit. Hein.
Ouais.
Voilà,
donc t'inquiète pas, ce sera pas ruineux. Hein.
Donc on va rappeler ton adresse internet, Jean-Marc. Merci Jean-Christophe.
Au revoir.
Au revoir. L'adresse internet pour joindre Jean-Marc Rodeur. Tu vas avoir beaucoup de mails après cette émission, Jean-Marc. Tu en avais déjà beaucoup. Ça va continuer. C'est jmrodeur, rodeur@hotmail.com. jmrodeur@hotmail.com pour poser vos questions à Jean-Marc Rodeur, un numéro de téléphone 08 92 23 95 20. Il y a une chose assez impressionnante aussi dans cet attentat, Jean-Marc, c'est cet homme qui ne serait jamais passé dans aucun cortège présidentiel du monde, c'est l'homme au parapluie. L'homme au parapluie qui était là pour dire à quel moment tirer, à quel moment la voie était libre. Oui, tu pourrais nous préciser encore quel était son rôle, je trouve que c'est vraiment très impressionnant.
Oui, alors déjà le simple fait qu'il ait pu être là avec un parapluie est déjà en soi une preuve de coup d'état de grande envergure. Parce que à l'époque, même en 63, maintenant a fortiori, un homme qui aurait simplement un parapluie et qui va se retrouver à 2 mètres d'un cortège présidentiel, par définition, on lui confisque son parapluie avant le passage du cortège, automatiquement. Donc déjà, le fait qu'il soit là est déjà en soi un indice de complot et de coup d'État, en soi-même, je dirais. Et alors, son rôle, c'était de prévenir le chauffeur, c'est-à-dire que s'il ouvrait... Bon, il ouvrait son parapluie, de toute façon, au moment où le cortège arrivait. Mais s'il baissait et levait son parapluie, ce qu'il a fait, ça voulait dire, pour le chauffeur William Greer, donc le chauffeur de la voiture de Kennedy, ça voulait dire, pour lui, vous devez ralentir ou vous arrêter, parce que nous n'avons pas réussi à les premiers tirs. Voilà son rôle.
Et donc cet homme a pu passer très librement à côté d'un cortège et qu'on en posait des questions.
Ah, c'est pas qu'il a passé. Il était là une demi-heure avant l'arrivée du cortège.
C'est incroyable.
Il était installé pratiquement au pied du pied métallique du panneau routier sous lequel passe le cortège Kennedy. Et c'est au moment d'ailleurs où Kennedy passe sous ce panneau routier que commencent les premiers tirs.
Incroyable. Nous avons Frédéric avec nous. Frédéric, bonjour.
Oui, bonsoir. Je voulais poser une question à Jean-Marc.
Oui.
Si Oswald a dit des choses entre le moment où il a été arrêté et le moment où il a été tué.
Oui. Alors Oswald, d'abord, il faut savoir que pendant 12 heures, il ne sait même pas pourquoi il est arrêté. Enfin, je veux dire officiellement. Lui, il doit s'en douter, mais je veux dire qu'officiellement, on ne lui notifie même pas.
Il a fait des déclarations d'ailleurs.
Oui, pendant les premières 12 heures. Ensuite, après, on lui notifie simplement qu'il est accusé du meurtre de l'agent Tippit. De l'agent de police Pipit, et qui est en fait lui-même d'ailleurs dans le complot, et qui a été en fait assassiné par Jack Ruby et Roscoe Wilde. Et ensuite, ça n'est que beaucoup plus tardivement qu'on commence à l'accuser d'être l'assassin du président, alors que ça fait déjà une journée que toute la presse, dès qu'il passe entre les couloirs et que la presse peut l'interviewer dans le siège de la police de Dallas, tout le monde lui demande... est-ce que c'est vous qui avez assassiné Kennedy, etc. Et il lui dit, mais je ne suis même pas accusé de ça. Et c'est après cela, à un moment, Jack Ruby lui passe un message en corrigeant une phrase de quelqu'un qui lui dit, vous avez été membre du groupe pour Cuba. Et Jack Ruby, qui est dans la foule, dit non, il s'agit du groupe, enfin il corrige la phrase. Et ça, c'est une façon de faire comprendre à Lee Oswald qu'il est toujours sous surveillance par ses commanditaires. Et là où Lee Oswald va lâcher le morceau, c'est-à-dire va dire « je ne suis qu'un pigeon », il dit « I'm just a patsy hein, », je vous donne la phrase exacte à la presse qui lui demande « avez-vous assassiné le président ?» Il dit « non, rien ne m'accuse de cela ». Et il dit « I'm just a patsy ». Voilà. Et pourquoi il dit ça? C'est un message que lui renvoie en retour. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, les policiers lui disent « bon, vous avez le droit d'appeler un avocat ». Bon, il lui dit ça 12 heures après, hein. C'est déjà pas très légal. Mais finalement, ils disent « vous pouvez appeler un avocat ». Or, le numéro de téléphone que donne Lee Oswald n'est pas celui de son avocat à la Nouvelle-Orléans. Il a un avocat à la Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas non plus celui de son traitant à Dallas, parce qu'il a un traitant à Dallas. L'homme qu'il appelle, c'est en fait Hurt, qui est son vrai officier traitant, et qui est à Raleigh, c'est-à-dire à côté de la base de la CIA de Next Head. Alors la base de Next Head, c'est une base dont je peux vous dire que peu de gens connaissaient l'existence.
Qui s'est rendu compte qu'il était vraiment, véritablement un pigeon dans cette histoire.
Et quand il dit « I'm just a patsy », c'est pas du tout pour les journalistes de dire « je suis un pigeon », parce qu'il sait très bien que les journalistes le croiront ou ne le croiront pas. C'est un message qui dit à ses chefs, parce que lui, il croit qu'il travaillait pour la CIA et l'ONI. Il ne sait pas du tout qu'il s'est fait complètement couillonner, pour parler crûment. C'est-à-dire que Clechot l'a complètement eu. Clechot est un officier supérieur de la CIA, et de très 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 haut niveau, beaucoup plus que ne le croit même Oliver Stone dans son film. Mais Clechot, donc, qui a, je dirais, missionné en quelque sorte Lee Oswald pour être observateur, enfin guetteur ce jour-là à Dallas, etc. Donc, Lee Oswald, il croit qu'il a... Il a participé à un coup d'État officiel de la CIA, de l'ONI, etc. Et il finit par s'apercevoir, mais très tardivement, que, en fait, il a participé à un coup d'État officieux, c'est-à-dire fait par des félons. Et donc, quand il comprend qu'il est lâché, il donne un dernier avertissement, quand il dit « je suis juste un pigeon », c'est une façon de faire comprendre, parce qu'il n'a même pas pu contacter son officier traitement à Raleigh, c'est-à-dire Hurt, puisqu'on ne lui donne même pas le numéro. C'est-à-dire que des officiers du Secret Service disent « vous ne lui passez pas ce numéro ». Et donc comme il voit qu'il est coupé, ce qui est très grave pour un agent, qu'il est coupé de son officier traitant et de son numéro de secours en quelque sorte, ça veut dire pour lui qu'il est lâché par ses chefs. Et comme il est lâché par ses chefs, il leur envoie par presse interposée un message en disant « I'm just a patsy ». Il dit en gros « si jamais vous continuez à me lâcher, je lâche tout le morceau ». Mais il n'en aura pas le temps puisqu'il sera assassiné le lendemain. J'espère que j'ai été clair, parce que tout est très compliqué hein, dans l'affaire Kennedy, rien n'est simple.
Frédéric nous a quittés, en fait
oui,
il écoute ton explication.
Oui, la réponse à ce qu'il disait.
Exactement, donc le standard est libre à nouveau. Didier, oui.
Oui, Jean-Marc, en t'écoutant je viens de comprendre que les nazis, néo-nazis américains ne montrent pas, ne produisent pas ce film parce que c'est une preuve qui se retournerait contre eux. C'est pourquoi
ah non,
il n'est pas
tout.
En circulation.
Non, pas du tout, ils n'en sont pas là. Ils adorent ce film. Bon, simplement, je crois que... Tu sais, c'est comme tous les mouvements extrémistes, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, du haut ou du bas. Quand on a des trucs spéciaux... moi, les deux néo-nazis que j'ai rencontrés à Paris... Bon, William Raymond, lui, a rencontré carrément les mecs de l'ETEC. Alors ça, c'est carrément foutre les pieds dans l'antre de la bête. Moi, j'ai rencontré deux néo-nazis, je peux dire... Bon, je donnerai pas leur nom, évidemment, pour une prudence élémentaire... C'est des types qui, en fait, faisaient partie d'une amicale, qui est une amicale d'anciens de la Légion, où il n'y a pas que des gens d'extrême droite, il y a aussi des gens de gauche à la Légion. Bon, enfin, parfois, il y a aussi des gens d'extrême droite, hein, c'est pas une honte pour la Légion. Hein. Du moment que ces gens, quand ils sont militaires, font leur boulot, bon, peu importe leurs opinions. Mais
ils ne se sont pas méfiés, excuse-moi Jean-Marc, oui. Ils ne se sont pas méfiés parce que tu avais le cheveu ras.
Ah, ça n'a rien à voir. C'est simplement parce que j'ai rencontré un des... je peux le dire, un des patrons de la protection corporelle de Gaulle en 79, des gorilles de Gaulle, un de leurs deux patrons de l'époque, et que ce type a reçu les types du Secret Service 3 semaines après l'attentat de Kennedy, c'est dans ce cadre que je l'ai rencontré. Ce type, quand on s'est vu par la suite, on se voyait toujours à l'amicale de la Légion à Paris, et c'est là que j'ai fait la connaissance de ces deux fachos, que j'ai revus beaucoup plus tard, très très tardivement, j'ai encore revu donc...
fin des années 90, début des années 2000. Et c'est là que ces types leur avaient dit, vous savez, William Raymond parle de ce fameux film projeté à l'ETEC. Mm-hmm. Et c'est là qu'ils m'ont dit, oui, mais nous, on y était, on l'a vu. Alors j'aurais dit, bon, est-ce que vous pouvez me le décrire? Pas de problème, on vous le décrit dans le détail. Ils me l'ont décrit quasiment image par image, comme vous décririez vous-même un film que vous venez de voir au Cinoche. Vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Et c'est pour ça que dans l'émission, j'ai dit, voilà ce que contient ce film, voilà la netteté des images, etc.
Compris.
Voilà. Mais pour autant, ne rêvez pas, je suis beaucoup trop, je suis pas un ami de ces gens non plus, mmh. J'aurais pas pu leur demander, est-ce que vous pourriez pas m'en faire une copie pirate, machin. Hein. Mmh. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, par contre, d'autres qui sont beaucoup plus introduits que moi ou qui sont plus malins que moi, je suis sûr, un jour, arriveront à en avoir une copie pirate.
Moi, j'ai bien une copie, 8 rue Violet, 75 015, et pour une fois, je passe sur l'anonymat, pas de problème.
Voilà.
Nous accueillons un auditeur, c'est Z313. Z.
Allô, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Bonjour Z.
Bonsoir Jean-Marc. Voilà, en fait, j'aurais aimé te poser quelques questions.
Oui.
Sur les personnages emblématiques de cette affaire.
Oui.
Mais avant, j'aimerais que tu me dises, si tu veux, tu peux me répondre. En fait, j'aimerais savoir qui est ce personnage que l'on voit menotté à Oswald, dans les locaux de la police de Dallas,
oui.
Au début du documentaire de Canal+, donc. Un jeune homme...
Lequel qui menote Oswald? Je ne me rappelle pas assez les images, dans le moindre détail.
Eh bien, au tout début du documentaire, oui. On voit donc Oswald dans les locaux de la police de Dallas, avec un homme menotté, à ses côtés, à son poignet. Un jeune homme qui paraît apeuré. Et donc, en fait, je me demandais qui était ce...
Ah oui, alors...
Peut-être que c'était Frazier ou...
Oui, ou est-ce Frazier? oui, c'est... Attendez, je vais vous répondre. Je ressorte mon engin. Voilà. Parce que j'ai mis tout ça sur un, vous savez, un pocket PC. Mm-hmm. Quand je le rallume. Oui. Je vois. Alors, c'est les agents... Attendez. Faut que j'aille dans la liste... Donc, groupe camouflage, c'est là-dedans que ça se situe.
Jean-Marc est en train de consulter son ordinateur.
Voilà. Alors, l'un des deux hommes auxquels vous faites allusion, celui qui a l'air apeuré, je pense que c'est Harrison ou Miller. C'est l'un de ces deux.
Et donc, qui était...
Je pensais plutôt à Miller, d'ailleurs. Il n'est pas en train de faire un mouvement de recul sur le côté droit.
Un mouvement de recul, c'est possible. En fait, Oswald... Alors,
c'est Miller, oui.
Oswald a l'air de... Oswald...
C'est un détective du Dallas Police Department.
Comment?
C'est un détective du Dallas Police Department.
Ah non, mais c'est un... la personne dont je vous parle, c'est un jeune homme qui est menotté et qui n'a pas l'air du tout de faire partie du staff de la police de Dallas.
Ah bon, mais vous parlez... Est-ce que l'image est prise dans des couloirs ou est-ce que c'est une image qui est prise au moment où on abat Lee Oswald dans
Ah
les,
non,
dans
du tout, du tout. Ce sont des images qui sont prises dans un couloir. Oswald parle, mais on n'entend pas du tout ce qu'il dit. Et en fait, il y a des policiers sur son trajet.
Oui.
Et il s'adresse à chacun des policiers.
Oui, bien sûr.
Et on n'entend pas du tout ce...
Oui, bien sûr, oui. Alors, s'il est menotté, en fait, le type qui est menotté avec lui n'est pas du tout un suspect ou quoi que ce soit. C'est un policier, en fait. Hein. Soit c'est un policier, soit c'est un agent du FBI. Parce que les seuls gens qui ont trimballé Lee Oswald en étant menotté à lui... étaient soit des agents du FBI, selon les circonstances, pendant ces deux jours, soit des policiers.
Bon, écoutez, je vous propose de revoir les images. En fait, c'est au tout début du documentaire. Et on n'a vraiment pas du tout l'impression que ce soit un policier. Enfin, de toute façon, c'était à titre informatif.
Dis-moi, Zed, est-ce que tu as Internet?
Oui.
Parce que ça peut être intéressant, justement, de continuer à communiquer après avoir revu ces images par mail avec Jean-Marc.
Ben, de toute façon, je pense que c'est ce que je ferais.
Ouais, ça me paraît pas mal, tu vois, sur ce genre de sujet-là, Internet peut servir.
Super. Est-ce que je peux poser encore une
Oui, bien sûr, vas-y.
Alors, en fait, c'est donc à propos de ces personnages emblématiques,
oui.
Du genre l'homme au parapluie,
oui.
Le Badgeman, et donc les trois...
Badgeman, c'est Roscoe White, hein, vous te fatigue pas.
Ok, voilà, donc en fait, c'est la question que je voulais poser. Mm. Et peut-on vraiment se fier au travail de White et Mac, qui ont donc agrandi cette photo de Moorman, et ont révélé la présence de Badgeman?
Oui, tout à fait.
Tout à fait.
Oui, tu penses à au premier travail qui avait été fait donc en 82 par le MIT, depuis on a refait d'autres à partir de 2001,
mm-hmm.
Une autre équipe qui n'a rien à voir, c'est le Media Lab après. Mais en 82, le premier travail a été fait par White et Mac, Et ce sont des scientifiques au-dessus de tout soupçon, d'une honnêteté absolue. Et bien sûr, on a tout fait pour les démolir, pour les faire passer pour des cons, pour parler crûment. Et la photo de Bachmann ne pose aucun problème. Je veux dire, c'est Roscoe White. On le reconnaît même en silhouette. Et même sa calvitie est reconnaissable.
Très bien.
Voilà, Zed.
Bon, bah super.
Seulement, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, sur cet instant-là, sur la photo de Moorman, alors je te signale qu'il apparaît aussi sur le film de Branson, qui est un gars qui a filmé aussi dans le coin. Et il y a eu sur un travail fait par le MIT là-dessus. Et là, on voit de nouveau Bachmann. Donc quand on le voit sur un film 8 mm par traitement et sur une photo Polaroid, c'est que c'était pas un artefact.
Vous savez aussi que sur le film restauré de
oui.
Maria Mushmore,
oui.
On voit un autre Umbrella Man aussi.
Oui, exact. Il y en a peut-être deux, c'est possible.
C'est assez troublant parce que enfin, lui aussi était sur le parcours et bien sûr avec son parapluie, on
oui.
On lui a pas pris.
Oui, seulement le problème, si tu veux, comme je répète, je prends en considération tout ça et très très au sérieux. Mais c'est un petit peu comme les 6 balles qui ont été retrouvées en plus, il y a eu effectivement 6 balles de plus. Seulement comme ces 6 balles, j'ai pas leur trajectographie, j'ai pas assez d'éléments pour dire d'où ils ont été tirés, etc., j'en parle pas en fait. Ah bah ça répond à ce que me demandait Alexandre, tiens, qui me demandait au début de l'émission qu'est-ce qu'il y aurait encore à faire comme enquête. Ben voilà des trucs qui demanderont encore pas mal d'enquêtes pour arriver à des preuves formelles.
Mais alors, la manipulation continue encore de nos jours, puisqu'en 78, avec le congrès du HSCA,
oui.
Un homme s'est présenté, a décliné son identité, il s'est déclaré comme étant ce fameux homme au parapluie.
Oui. Non, celui-là, oui, c'était en fait... bon, j'ai enquêté dessus, je suis arrivé à la conclusion que c'était un maniaco-dépressif en phase maniaque qui l'amenait à une certaine mythomanie. Voilà.
C'est pareil, l'épileptique dont vous avez parlé au début.
Oui, lui aussi... il est toujours pas identifié. Ceux qui ont prétendu l'être, c'est faux.
Très bien, moi j'avais un nom, Jerry Belknap.
Oui, exact.
Voilà.
Mais je ne pense pas que ça soit lui.
Très bien, et les Tramps aussi ont...
Mais je peux me tromper aussi, hein, attention.
Les Tramps aussi ont été identifiés.
Pardon?
Les trois clochards, les hobos qui ont été... qui ont été promenés sur le Dealey Plaza et qui feraient donc partie de cette équipe dont vous avez...
C'est Max, Ladislas, et le troisième, qui, lui, n'est pas identifié, le gros qui est derrière, là, qui fait la grimace.
Parce que moi, en fait, j'ai trois noms.
Oui, vas-y.
Et il y a même donc un de ces personnages qui vivrait à Melbourne, qui a écrit un livre, d'ailleurs, et qui dit ouvertement qu'il était un de ces trois hobos. Je crois qu'il s'appelle Jedney. Je crois que c'est Doyle, Abrams et Jedney.
Oui, eh ben c'est totalement faux.
Très bien, parce que moi j'ai même son adresse à Melbourne. Il a donc écrit un livre.
Oui, je sais.
Donc en fait, la manipulation continue de nos jours.
Oui, parce que de toute façon, Max est parfaitement identifiable. D'ailleurs, on le voit, puisque si tu observes bien ces photos, il y a eu donc trois clichés pris, donc deux sont généralement publiés, mais enfin il y en a eu trois.
Je connais les trois clichés.
Et ils ont été faits en fait par le photographe du... comment il s'appelle le Dallas Time.
Oui.
Non, c'est pas Adjet.
C'est pas Adjet, oui, oui.
Non. C'est un photographe local, hein, du comment il s'appelait
pas son nom.
Time, Dallas Time ou Time...
Oui, enfin, un truc dans ce genre-là, quoi. Ouais.
Et alors, ces clichés, en fait, ont été très bien analysés. Par Seth Cantor, William Raymond, etc. Et c'est eux que tu devrais suivre parce que eux ont fait un travail vraiment crédible. Et les types sont parfaitement identifiés. Hein.
Alors Z, je ne peux que
sauf le gros derrière.
Sauf le gros derrière qui n'a pas encore.
Qui est leur interprète en fait.
Qui fait mine de se cacher. Hein.
Oui, alors le truc le plus con que j'ai vu, c'est que le gros derrière, c'est vrai que quand on l'a grandi, il ressemble pas mal à Hunt, le milliardaire. Pas Hunt, le l'agent, hein, Hunt le milliardaire. Hunt le milliardaire a à peu près la même trompe. En fait, c'est pas du tout Hunt, c'est simplement un type qui lui ressemble un peu. Quoi. Mais alors, on voit des sites entiers qui disent, voyez, Howard Hunt, pour se faire des sensations fortes, c'était même foutu dans l'équipe de tir. C'est complètement idiot.
Voilà, c'est un espèce de délire interprétatif.
Voilà.
Très bien. Et juste pour finir...
Ouais, une dernière. Et je voulais juste te conseiller, avant que tu me poses ta question, peut-être de faire un tour du côté de Top Secret. Du magazine, je ne sais pas si tu le connais.
Oui, je le connais. Oui.
Et de prendre le CD, de commander le CD qui va avec. Mm-hmm. Parce que là, je ne sais pas si tu l'as entendu tout à l'heure, mais tous les films Tous les films correspondant à l'attentat contre JFK,
sauf celui d'Oliver,
sauf, bien sûr, sont sur ce disque. Il est passionnant, CD. Je l'ai vu, il est vraiment passionnant. Je peux que te conseiller ça, parce que tu as l'air d'être un passionné de ce sujet. Ta dernière question.
Alors donc, en fait, ma dernière question, j'aurais aimé savoir si vous pensez que sur le film de la donc je crois que c'est la WDSU-TV.
Oui.
Est-ce que c'est vraiment Clécho que l'on voit au fond en blanc?
Là, ça fait partie des hypothèses de travail. Je dirais, moi, j'aurais tendance à le croire.
En plus, je crois qu'Oswald est juste devant le comité donc dont était président Clécho.
Oui.
Le comité des marchés à la New Orleans. Mmh. Donc, vous pensez que ça peut être Clécho?
Moi, j'aurais tendance à le croire, oui. Mais là, je te donne vraiment une opinion personnelle. Parce que, comme j'ai dit dans l'article comme dans l'émission de radio, je n'ai donné que ce qui est prouvé de façon absolue. Mais vraiment absolue. C'est rare que je dise ça. Hein. Absolu, quand je dis absolu, c'est absolu. Alors, comme ça, c'est pas des éléments prouvés de façon absolue. Je dis, c'est des éléments à forte probabilité. Moi, j'aurais plutôt tendance à le croire, mais donc je ne le mentionne ni dans l'article, ni dans tu as entendu, dans le truc de radio, dans le reportage radio, parce que on doit vraiment donner aux gens des éléments irréfutables. Parce qu'on a dit tellement de choses qu'il fallait vraiment limiter ça à des choses qui sont irréfutables.
Bien. Merci à toi Zed et bonne soirée.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir. Voilà, donc je rappelle Top Secret, l'article et le Top Secret est sorti aujourd'hui. Vous le trouvez dans les kiosques et vous essayez de le trouver. Si vous ne le trouvez pas, demandez à votre libraire de le commander. L'émission de ce soir retranscrite dans un article de 17 digipages, c'est ça Jean-Marc?
Oui, c'est ça. Oui.
Environ 17 digipages. On n'a pas parlé encore de la femme de Lee Harvey Oswald.
Marina.
Oui. Oui.
Alors Marina Oswald, en fait, elle était la fille d'un colonel du KGB. Je sais pas si elle était espionne. Beaucoup disent que si, mais on peut être très bien. On peut quand même être la fille d'un colonel du KGB sans être espionne pour autant, même en épousant un espion américain. Mais disons qu'en tout cas, bon. Elle a peut-être joué un double jeu en transmettant des informations à son pays d'origine, la Russie, lorsqu'elle a émigré aux États-Unis avec Lee Harvey Oswald, qui revenait de Russie, donc, où il avait fait une mission d'espionnage, portant surtout sur les missiles sol-air russes, et sur une école de formation, disons, d'agents très spéciaux en Russie, voilà. Et qui était sa mission, en fait. Et alors donc il a ramené Marina qu'il a épousée. Alors Marina Oswald, après l'arrestation d'Oswald et après son assassinat, a été, disons, conditionnée par le FBI et la CIA qui lui ont fait comprendre qu'il fallait bien répéter sa leçon. Elle a aussi rencontré des responsables de la commission Warren qui lui ont écrit le texte. Et après, elle l'a récité gentiment sous peine d'être expulsée des États-Unis, quoi.
Ils lui ont demandé de dire quoi?
Bah de dire que tout lui indiquait que son mari était l'assassin de Kennedy. Enfin, c'est grotesque d'ailleurs, quand on écoute ces interviews, ça fait sourire. Même les procès staliniens étaient plus crédibles, c'est pas peu dire.
Oui. À propos de Lee Harvey Oswald, est-ce qu'on peut revenir sur cette photo de la couverture du Life?
Oui, on le voit avec sa carabine.
Alors dans le film, d'Oliver Stone.
On dit que la photo est truquée, c'est par photomontage, qui est vrai.
C'est vrai?
Oui, seulement ce qu'il ne savait pas, c'est que, pour te dire comment nous, on a enquêté sur cette histoire de Kennedy, tous les enquêteurs, toute la communauté des enquêteurs, c'est qu'on est allé beaucoup plus loin, parce qu'on a dit, bon, on peut prouver immédiatement, par des méthodes scientifiques d'analyse, que la photo est truquée, c'est-à-dire qu'on a plaqué la tête d'Oswald sur le corps de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, nous, on a été tellement loin que on a trouvé à qui appartenait ce corps.
Bravo.
C'était Roscoe White.
D'accord.
Et on peut le prouver de façon absolue. Comment? Parce que Roscoe White avait une déformation très rare d'un os du poignet. En l'occurrence, qui apparaît sur cette photo.
D'accord.
Donc la probabilité que ça soit quelqu'un d'autre que Roscoe White est infinitésimale.
Mais c'est quand même incroyable quand on écoute tout ce que tu nous as dit ce soir. Que des gens aussi précautionneux, des gens qui ont organisé un coup d'État devant les télévisions, devant les médias, devant la population, n'aient pas pensé à diviser, à multiplier les acteurs de cet attentat, même au point de mettre des comédiens, qui, par exemple, oui. cette personne qui tient l'arme, pour ne pas se retrouver accusé à la fin.
Parce non, que... ça, c'est ce qu'on ferait de nos jours.
Oui.
Mais pas à l'époque. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que d'abord, ils n'avaient pas besoin d'être trop minutieux, parce qu'ils se... De toute façon, s'ils rataient le coup d'État, même avec des masquages les plus sophistiqués, ils finiraient par être démasqués. Ils seraient pourchassés, quoi. S'ils avaient raté Kennedy, lui, ne les aurait pas ratés, comme on dit. Hein. Maintenant, à partir du moment où ils savaient qu'ils réussissaient le coup, de toute façon, ils étaient morts, en gros, à partir du moment où on a réussi, on n'a pas besoin de... On ne fait pas des preuves policières, si tu veux. On fait des preuves médiatiques. Tu comprends ce que je veux dire ?
Ouais, tu pourras pas me faire croire que la photo n'était pas déjà prête.
Bah, la photo a été préparée longtemps en avance, mais voilà. Elle est grossièrement truquée, en fait.
Oui. Oui,
disons que la CIA, par exemple, aurait fait bien mieux. Tu vois. Parce que la CIA t'aurait fait un cliché du même genre, t'aurais pas vu le trucage, encore de nos jours.
Mm.
Par contre, là, on le voit très bien. Quoi.
On parle beaucoup ce soir de ce film d'Oliver Stone, JFK.
Oui.
Est-ce qu'il a eu un retentissement aux États-Unis ?
Oui, il a été très mal pris. Les Américains l'ont détesté, l'ont trouvé scandaleux, ont dit non, ça peut pas être ça, etc. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on a 70% des Américains qui croient au complot, mais on en a que 20% qui croient à vraiment des tas d'équipes de tireurs, des choses comme ça.
D'accord, donc rester dans le mystère est beaucoup plus facile pour son équilibre mental quant aux personnes qui nous disent.
Non, parce qu'il faut pas oublier que pour les Américains, s'ils admettent la vérité, parce que c'est la vérité, je veux dire, ce que je vous ai dit dans l'émission, je rassure les auditeurs, c'est des preuves absolues. Là, on n'est même pas dans les hypothèses, on est dans des preuves multiples, absolues, chacune plus sûre l'une que l'autre. Voilà. Comme j'ai dit à plusieurs auditeurs, j'ai éliminé tout ce qui n'était pas totalement sûr. Eh bien... Ces preuves-là, les Américains peuvent pas les admettre parce que c'est pas pour l'attentat lui-même. À la limite, les Américains, ils seraient ravis d'apprendre toutes ces preuves et de les accepter. Seulement, ça implique que leur gouvernement, leur rêve américain s'écroule. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Vous pouvez poser vos questions à Jean-Marc Roder qui est avec nous suite à cette émission diffusée en début de soirée de 23h à 1h30 du matin concernant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Vous avez écouté cette émission. Vous souhaitez poser des questions à Jean-Marc Roder. Vous en avez encore le temps au 08 92 23 95 20, 34 centimes la minute. 08 92 23 95 20. Radio Ici et Maintenant, 95.2. Jean-Marc, une question en antenne à l'instant, assez brève.
Oui.
Pourquoi toutes ces complications pour assassiner JFK ? Est-ce qu'on ne pouvait pas le faire plus facilement ?
À l'époque, je ne sais pas. Oui, peut-être.
Mais je crois que c'est toujours quand tu as des gens qui eux-mêmes font partie du système, des services secrets, etc., donc qui ont fait déjà des opérations très compliquées, je dirais ils doivent avoir des, je dirais presque des réflexes conditionnés, ils peuvent pas penser autrement que de façon compliquée, d'une certaine manière.
La difficulté était une obligation pour arriver à un but aussi extrême. Le jeu, si je peux me permettre, n'en aurait pas valu la chandelle. Il fallait quelque chose d'énorme pour perpétuer ce coup d'État. C'est même presque une question d'orgueil, non?
Ben, je dirais que oui. Puis je dirais que je crois que ces gens, c'était des gens paramilitaires, tu sais, style anticastriste, etc., la partie opérationnelle. Ces gens concevaient tout comme des militaires, c'est-à-dire opération de commando avec plein de tireurs, machin, très classique, façon militaire. Alors je dirais que puisqu'ils avaient de toute façon prévu une voiture piégée en cas où les tireurs échouaient, moi si j'avais été eux, j'aurais utilisé que la voiture piégée, et puis c'est tout.
Évidemment.
Ça aurait été beaucoup plus simple.
Nous accueillons Claire qui souhaite te poser une question. Claire, bonjour.
Bonjour, bonjour Alexandre, bonjour Jean-Marc.
Bonsoir.
Bonjour,
à cette heure-ci, c'est bonjour.
Je vais peut-être faire partie du nombre de gens qui vont dire que vous avez fait un travail splendide, effectivement. Mais j'avais envie de dire, j'avais envie aussi de poser une question, mais avant tout, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est la façon dont l'être humain est pourri, quoi. D'une certaine... bon, on dit que l'être humain est capable de belles choses, mais en même temps, c'est machiavélique, quoi. Arriver à un point de penser à des petits détails comme ça, en plus de même pas laisser en paix, entre guillemets, le corps de John Fitzgerald dans sa tombe, de carrément le manipuler, moi je trouve ça vraiment machiavélique, quoi. Voilà, je voulais vous poser une question, sinon précise. Bientôt, donc c'est bientôt l'anniversaire de sa mort, et je voulais savoir de quelle on va bientôt sûrement en passer à la télé, à la radio, dans beaucoup de médias, retranscrire, repasser des films et même des photos. Et qu'est-ce que vous, à votre avis, de quelle façon de quelle façon les médias français vont opérer cette information?
Oui. Alors, je crois que vous verrez les deux extrêmes. C'est pour ça que l'article et l'émission seront intéressants pour vous, parce que vous êtes des privilégiés d'une certaine manière, parce que finalement, il n'y a pas tellement de gens qui lisent Top Secret, ou tellement, il n'y a pas des millions de gens qui écoutent R.I.M. C'est quand même des gens déjà motivés, etc. Mmh. Et alors, ce qui sera très intéressant, c'est que vous verrez à quel point on peut se gourer encore 40 ans après. C'est-à-dire que je vous parie tout ce que vous voulez, que vous verrez des journaux ou des médias qui vont dire, finalement, probablement qu'il n'y avait que Lee Oswald, ou à la rigueur, un petit copain avec lui.
Est-ce que c'est simplement par naïveté, ou est-ce qu'il y a derrière aussi quelque chose de plus, on va dire, qui suit complètement la mentalité de ces gens qui gouvernent les États-Unis d'une façon occulte?
Non, pas en France, parce que en France, ils ne pousseraient pas la désinformation jusqu'à la pousser chez nous. Ils n'ont rien à foutre de ce que pense l'Europe. Mais, sur cette affaire, j'entends. Mais, non, je pense que c'est exactement comme quand on parle des ovnis, etc. Mm-hmm. Si vous saviez la violence de certaines réactions de mails que soulève le simple fait d'évoquer des théories pourtant validées, mm-hmm. qui démolissent un petit peu les sciences dites officielles, ça développe des réactions très violentes. Pas agacée, violente. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que vous verrez des gens qui, tout simplement, ne peuvent pas accepter un non-conformisme dans ce domaine. Oui.
Oui, c'est hallucinant. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau de conscience assez élevé pour pouvoir changer, passer à autre chose, quoi.
C'est pas un niveau de conscience, c'est... parce que dire pas arriver à un niveau de conscience assez élevé, je trouve que c'est déjà rabaisser l'homme. Moi, je pense que tout le monde a un niveau de conscience très élevé, en fait, même absolu. Mais, et infini, je crois que c'est un niveau de liberté. Voilà, le terme qui me conviendrait le plus.
C'est-à-dire, hein, j'ai pas compris.
Bah, si vous voulez, si vous analysez ce que moi je dis, par exemple, je crois que quand les gens disent « Ah, on est émerveillé par ce que dit Jean-Marc », il n'y a vraiment pas de quoi être émerveillé, parce que de toute façon, tout ce que je dis est parfaitement disponible un peu partout. Simplement, le vrai émerveillement, je dirais, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ait la liberté de le dire, voilà.
D'accord.
Moi, je suis très libre, j'en ai rien à foutre. Même quand je reçois, par exemple, des mails d'injures, les personnes qui m'envoient ça, je leur réponds toujours par la même formule. Je dis, je vous remercie infiniment d'avoir pris la peine de me répondre, déjà. Voilà.
Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, puis je vous écoute encore.
C'est merci Claire.
C'est pas une question de génie ou de quoi que ça, c'est une question simplement de liberté. Voilà.
De liberté, de se permettre de réfléchir sur un sujet qui a fait tourner des enquêteurs sur la planète entière.
Moi je dis, ayez la liberté de dire ce que vous pensez, de façon joyeuse, généreuse, donc ouverte. C'est-à-dire que vous aurez des gens qui diront, vous dites des conneries, d'autres qui diront, je suis partiellement d'accord ou je suis pas d'accord, mais ce qui fera la qualité du débat, même si vous avez des gens très, très offensifs en face de vous, ce qui fera la qualité du débat, c'est si vous avez en vous-même simplement cette, je dirais, une liberté joyeuse. C'est-à-dire dire, bon, ben, puisque je le pense, je suis peut-être très con, je pense des conneries, mais si je suis sincère, eh bien, je dis sincèrement ce que je pense. Et vous verrez que ça ne fait jamais de dégâts. Parce que quand on dit les choses avec sincérité, de toute façon, on ne les impose pas aux autres. Les autres se sentent une grande liberté, éventuellement, de le refuser ou d'avoir un esprit critique. Et en même temps, c'est comme ça que les choses avancent et que finalement, le vrai finit toujours par apparaître de tout ça. C'est un peu ma conclusion.
Oui, voilà, Jean-Marc, j'allais te demander ta conclusion sur cette affaire Kennedy au bout de 30 ans. Est-ce que déjà, il peut y avoir une conclusion ?
Oui, je crois que la conclusion, c'est que je dirais que c'est une affaire résolue à 80 ou 90%. Les 20 ou 10 ou les 10 ou 20% restants ne sont que des choses de détail. L'essentiel est résolu, ça il faut le dire. Alors ça peut être quelque chose de décevant, hein. C'est vrai quand on consacre 30 ans, on est un peu frustré quand on dit, ouais, bah finalement, dans les grandes lignes, on sait tout, en fait. Mmh. Il n'y a plus vraiment de mystère. Bon, dans les détails, il y en a encore des tas de petits. Le monsieur extrêmement, les deux messieurs extrêmement calés qui nous ont rappelé tout à l'heure, vous avez vu à quel point il y a des détails, vous voyez, des choses très précises. Par exemple, Clécho était-il à tel endroit habillé en blanc ou pas, etc. Mais je dirais, fondamentalement, ça ne change rien. On a la clé de l'affaire, je dirais. Bon. Mais par contre, il y aura des tas de petits détails comme ça qui pourront être effectivement améliorés dans l'avenir. Mais donc, c'est une affaire, je dirais, pas classée, mais résolue.
Et ça passionne encore.
Mais elle est passionnante parce que on a quand même un homme qui a été un des plus importants du XXe siècle. Par sa politique, même s'il a eu que 2 ans et demi de règne, entre guillemets, en 2 ans et demi, il en a fait plus que beaucoup de présidents des États-Unis en 4 ans ou en 8 ans. Et en plus, c'était un homme qui avait un charisme extraordinaire, qui n'était pas non plus un saint, je veux dire, sa vie privée était lamentable d'une certaine manière. Mais par contre, sa vie politique était remarquable. Et ça, on ne peut pas le lui enlever.
Jean-Marc Roder, merci beaucoup pour ton intervention. Je voudrais rappeler ton mail avant qu'on ne se quitte. C'est
oui.
J.M. Roder, R-O-E-D-E-R, tout lié, jmroder@hotmail.com pour tous ceux qui voudraient continuer cette émission via Internet. Voilà pour l'adresse Internet de Jean-Marc Roder. Vous pouvez aussi retrouver cet article, cette émission en fait sous forme d'article dans le nouveau Top Secret. Que Rock Soccer produit et que vous pouvez trouver dans vos kiosques avec un CD vraiment très intéressant regroupant une grande partie, presque tous les films sur cette journée de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Jean-Marc Roder, cette émission, celle de ce soir, sera rediffusée donc celle de 23h à 1h30 du matin que nous avons enregistrée ensemble, sera rediffusée dimanche de 15h à 17h30. Voilà pour les auditeurs qui souhaitent la réécouter ou l'enregistrer. On en a fini, Jean-Marc ?
Voilà.
Quelque chose à rajouter ?
Non, je dirais simplement, une fois de plus, j'ai été très touché et très heureux d'échanger avec toutes ces personnes, dont certaines étaient extrêmement calées, même sur cette affaire de Kennedy, et je les en remercie infiniment. Et en même temps, je leur dirais... je les en remercie d'autant plus qu'il ne faut pas oublier aussi que leur coup de fil participe à faire vivre aussi RIM et à lui permettre de se perpétuer aussi.
Merci à toi, passe une bonne soirée.
Je vous remercie infiniment.
Et on se retrouve dans un instant, Jean-Marc Roder, sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant.
D'accord.
Merci à toi, à très bientôt.
Merci.